Salam alaikum, my sweet sister. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans A Cup of Tea Money, le podcast des femmes musulmanes qui aspirent à une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est Kounadi, la fondatrice de Budget Éthique Femmes, où nous accompagnons les femmes dans la gestion de leurs finances personnelles et ou professionnelles en respectant l'éthique musulmane et en tenant compte de leurs aspirations profondes. De par mon métier, je rencontre énormément de musulmans qui souhaitent devenir propriétaires en France, mais se retrouvent confrontés à un terrible dilemme. Celui de faire appel à la banque pour financer leurs biens ou celui de renoncer à leur projet pour rester en conformité avec leurs valeurs. Et si je te disais qu'il était possible d'allier les deux? Eh oui, être propriétaire sans riba n'est pas impossible. Il faut juste voir plus loin que les banques pour trouver d'autres alternatives. Pour étayer mes propos, aujourd'hui, je suis en compagnie de notre sister Sophia, qui est multipropriétaire sans jamais avoir eu recours au riba. Elle va nous partager toute son expérience autour de l'immobilier, sans aucune retenue. So, my sweet sister, installe-toi confortablement avec une tasse de thé ou de café, un bon morceau de gâteau et prends note de cet échange. Nourris-toi de son expérience et hydrate-toi de ses conseils et recommandations. Salam alaikum Sophia, comment tu vas?
Alaikum salam Kunadi, ça va, merci, barakallahu fik.
Du coup, avant de commencer, j'aimerais te remercier au nom de moi et toutes les personnes qui pourront t'écouter d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui ton expérience, en particulier dans celle de l'acquisition immobilière. Avant d'aller plus loin, je vais te laisser te présenter. Et puis, on enchaînera avec les différentes questions, Inch'Allah.
Inch'Allah. En tout cas, merci à toi pour l'invitation déjà. Et puis, merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Alors, moi, je m'appelle Sophia, j'ai 38 ans, je suis mariée, maman. Ma situation professionnelle, on va dire, ces 15 dernières années, a beaucoup bougé, a beaucoup varié. Elle correspond plus, en fait, à mes objectifs de vie que je m'étais fixée qu'à mon cursus professionnel, on va dire, qu'au diplôme que j'ai pu avoir, puisque j'ai été à la fois téléprospectrice et rédactrice web. Ensuite, je suis passée assistante maternelle à domicile quand mes enfants à moi étaient en bas âge et que j'avais besoin de rester auprès d'eux. Et aujourd'hui, je travaille dans le marketing de réseau et je suis rentière immobilière.
Mashallah. Du coup, ouais, c'est vraiment des parties, on va dire. Comme on dirait, du coq à l'âne, on est passé là, on a commencé là, machin. Mais comme tu dis, il y avait quand même un fil conducteur qui était s'adapter à ta situation familiale à chaque fois.
C'est ça, c'est que j'ai toujours cherché voilà, un boulot qui corresponde à ma vie plutôt que l'inverse.
D'accord, Inch'Allah. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour discuter justement du fait d'être propriétaire, en particulier de pouvoir être propriétaire sans passer par la case crédit, faire appel au riba. D'accord. Ce qu'on veut, c'est que bah voilà que nos sweet sisters qui vont écouter puissent se rendre compte que il est possible en France aujourd'hui de devenir propriétaire sans forcément faire appel aux banques classiques en tout cas. Donc toi, tu es propriétaire. Donc est-ce que tu pourrais nous dire du coup si tu es propriétaire d'un logement principal, d'un logement locatif? Combien de biens tu as en ta possession et puis nous raconter un peu l'histoire de ces biens, c'est-à-dire depuis quand tu es propriétaire, où est-ce que tu es propriétaire et à quel âge tu es devenu propriétaire la première fois.
Alors en fait, moi aujourd'hui, à l'heure actuelle où on se parle, je suis propriétaire de 4 biens, dont Machala. Un qui est mon logement principal, donc et d'ailleurs le plus gros, c'est ma maison, quoi. J'ai deux biens qui sont en ce qu'on appelle en LCD, c'est-à-dire en location courte durée, qu'on connaît plus classiquement sous l'appellation Airbnb, le saisonnier. D'accord. Et j'ai un bien qui est en location normale avec une famille qui est à l'intérieur, voilà, la location on va dire classique.
D'accord.
Donc en fait, moi, mon premier bien, ce qui a été le plus gros, c'est l'achat du terrain et la construction de la maison. Donc ça s'est fait en 2010 dans le sud de la France, dans une ville plutôt moyenne, à peu près 15-20 000 habitants. Et j'avais à l'époque 26 ans. Donc voilà, avec mon mari, c'est en 2010, fin 2010, qu'on a signé pour l'achat de notre terrain. Et par contre, on a démarré la construction uniquement un an et demi après, pour justement ne pas avoir recours au crédit bancaire. Et ça nous a permis en fait de renflouer nos caisses pour pouvoir attaquer la construction, qui était un deuxième morceau assez important financièrement.
D'accord. Donc du coup, ça veut dire que vous avez plutôt opté pour cette option de construire vous-même votre logement plutôt que d'en acheter une déjà toute faite.
Parce qu'en fait, en 2010, quand on avait commencé à chercher un constructeur, enfin des choses déjà toutes prêtes, c'était beaucoup trop cher pour nous et ça nous obligeait à passer par un crédit bancaire, ce qu'on ne voulait pas du tout. Donc ça, c'était pour nous éliminé d'office. Donc il fallait qu'on trouve une alternative au projet qu'on voulait mener. Donc c'était vraiment comme à l'époque, tu sais, c'est le schéma un peu classique, tu te maries, tu as des enfants, tu passes à la maison. Bah, on était encore dans ce mindset-là. Et donc, on voulait donc acquérir notre maison et on savait qu'on devait décomposer en fait le projet maison pour pouvoir y arriver.
D'accord. Donc, ça veut dire que ce que vous avez fait en gros, c'est que vous aviez votre objectif, c'est avoir votre propre maison, mais en fait, vous vous êtes fixé plusieurs petits objectifs à court terme pour pouvoir arriver justement à cet objectif final. Inch'Allah.
C'était exactement ça. On a, voilà, comme tu as dit, on a décomposé en fonction d'un calendrier. On savait que voilà, aujourd'hui on peut acheter le terrain, mais le temps de enfin, notre temps d'épargne quoi, pour construire, puisqu'on avait déjà fait les devis, on savait combien ça allait nous coûter de construire ce qu'on appelle la carcasse de la maison, c'est-à-dire les murs, un toit et des fenêtres. Donc tout ça, on en avait pour à peu près 50 000 euros. Donc il fallait qu'on ait cet argent pour pouvoir démarrer.
D'accord. Et du coup, pour les personnes qui veulent être propriétaires, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes quand on n'a pas un gros budget de passer par cette méthode-là plutôt que de faire cet achat bah, déjà tout prêt en fait?
Alors, moi, c'est ce que je recommande parce que ça va nous permettre de garder toujours notre objectif entre les yeux. On sait pourquoi on continue d'épargner, on sait pourquoi on continue de travailler, parce que derrière, voilà, on a par exemple une construction à finir ou à démarrer. Et ça nous permet de vraiment nous éloigner de REBA, en fait, du crédit bancaire qui peut être au bout d'un moment une solution de facilité. De se dire, bon, allez, c'est bon, moi, je ne vais plus attendre, j'y vais. Je passe par le crédit. Moi, je pense que c'est très intéressant de décomposer parce qu'on garde toujours la même capacité d'épargne parce qu'un terrain nu, ça ne nous coûte rien. Et voilà, il est payé, il est posé. Et on continue d'épargner. On continue, on continue, on continue pour attaquer derrière les travaux.
D'accord. Mais là, par rapport à ce que tu nous dis, et moi, je trouve ça très intéressant, mais en général, comme, enfin, ce que je vois, c'est que les gens, quand ils deviennent propriétaires aussi, c'est le côté, bah, je vais être propriétaire, je veux plus payer un loyer, alors que le bien ne m'appartient pas. Mais là, en passant par ce que vous avez fait, c'est-à-dire acheter le terrain et construire petit à petit, vous n'avez pas pu justement occuper le logement tout de suite. Donc, ça veut dire que vous payez quand même un autre loyer ailleurs. Ça s'est passé comment?
En fait, on payait toujours le loyer de notre appartement, mais le fait d'avoir payé de notre fonds propre notre terrain et de n'avoir aucune mensualité à rembourser derrière, on ne paye pas en fait des deux côtés comme certains peuvent l'avoir quand ils ont un crédit où ils se disent bon bah mon crédit a démarré pour la maison, mais j'ai encore mon loyer, donc il faut que je me dépêche de rentrer dans la maison.
Déjà, ça, c'est un bon point.
Voilà. On n'avait pas ce problème-là. Le terrain était acquis, payé chez le notaire, c'était terminé. Il nous attendait en fait. Et c'est pour ça qu'on a préféré utiliser, en fait, enfin, adopter cette stratégie plutôt que de tout lancer d'un coup, comme certains le font, où on achète, on construit derrière et on fait tout de A à Z. Non, nous, on a décomposé non seulement l'acquisition du bien, mais aussi la construction du bien.
D'accord. Mais et du coup, la seule chose que ça, enfin, quand je regarde cette stratégie-là, la seule chose sur laquelle ça pourrait empiéter, c'est peut-être votre capacité d'épargne. Alors, puisque vous avez le loyer à payer à côté, donc ce que vous aurez pu mettre de côté sera moins important que s'il n'y avait pas ce loyer-là.
Oui et non, je vais te dire. En fait, j'ai compris la question que tu veux me poser, mais oui et non, parce qu'en fait, nous, on s'était donné l'objectif sur une année. On s'est dit, on a une année pour tout laisser en stand-by, en fait, pour continuer d'épargner au maximum. Donc, je ne cache pas, cette année-là, pas de vacances, pas de dépenses particulières. On vit, enfin, on vit au strict, pas au strict minimum, mais on fait pas de folie, quoi. Parce qu'il faut absolument avoir de l'argent pour démarrer la construction. Et après, une fois qu'on a démarré notre construction, Là, on a pu, voilà, du coup, libérer l'appartement au bout de 6 mois à peu près. Donc, on a payé, voilà, on a pu, et on est rentré, par contre, dans une maison qui, ce que les auditrices doivent aussi comprendre, c'est qu'on a seulement fini l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que dehors, le terrain était encore en chantier, je n'avais pas de façade, je n'avais pas de portail, je n'avais pas de belle terrasse. Enfin, voilà. C'est la priorité ensuite, c'était de rentrer dans la maison pour pouvoir annuler, du coup, la dépense loyer.
D'accord. Et du coup, là, vous augmentez la capacité d'épargne pour pouvoir terminer, on va dire, les finitions qu'il y avait à faire. Mashallah. D'accord.
Et les finitions après, voilà, extérieures, du coup, ben, on a continué à garder notre capacité d'épargne, plus le loyer qu'on continuait à sortir les autres mois, on l'a gardé encore, on l'a inclus dans la capacité d'épargne. Et donc, du coup, ça a augmenté notre capacité d'épargne et ça nous a permis de financer après tous les travaux extérieurs.
Mashallah. Et là, je tiens à rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça, c'est une stratégie qui est, enfin, quelque chose que d'autres personnes ne feront pas. C'est le fait que tu dises, on avait notre capacité d'épargne et le loyer qu'on ne payait plus, on l'a injecté dans la capacité d'épargne pour l'augmenter. D'autres personnes se diraient, ben voilà, maintenant je paye plus de loyer, donc j'ai ces 800 euros avec lesquels je peux me faire plaisir, trouver n'importe quoi, on va dire avec, et finalement le mettre pas à profit correctement.
C'est ça, c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est vraiment un élément important dans la réussite de ceux qui arrivent à épargner et qui arrivent à investir et à monter des projets. C'est de toujours, en fait, il faut toujours augmenter sa capacité d'épargne en fait. Et ne pas, comme tu l'as dit, ne se dire, bon, bah, j'ai plus de loyer à payer, je peux dépenser cet argent-là. Non, on continue, il y a encore d'autres projets derrière.
C'est ça, Inch'Allah. Exactement. Et donc, du coup, là, c'est comment ça s'est passé pour le projet, le bien principal. Et tu nous disais que bah, finalement, vous en avez 4, Mashallah. Donc, ça veut dire que vous avez décidé d'aller plus loin dans l'investissement immobilier.
C'est exactement ça.
D'accord. Et donc, pourquoi? Parce qu'en général, les gens, ils se disent, bon, moi, ce que je veux, c'est avoir mon logement principal, etc. Et là, bah, vous êtes parti plus loin. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette décision et comment ça s'est passé du coup pour l'acquisition des autres biens?
Alors, moi, en fait, déjà personnel, enfin, avant déjà de rencontrer mon mari, moi, l'immobilier, c'était toujours quelque chose qui m'avait attirée. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'y trouvais une forme de facilité à avoir de l'argent.
D'accord.
Tu vois, je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire. C'est que je me disais, et j'entendais aussi les anciens, quand moi j'étais plus jeune, dire « Ouais, mais c'est bon, j'ai mes 2-3 apparts, ça me ramène un peu de loyer, et puis je continue, moi, à travailler. » Et j'avais déjà remarqué, voilà, cette notion de complément de revenus, en fait. Et du
D'accord.
coup, d'amélioration aussi du niveau de vie. Hein, parce qu'au bout d'un moment, tous ces projets-là accumulés, tu gagnes en qualité de vie. Moi, c'était ça qui m'avait toujours trotté dans un petit coin de ma tête. Et je savais que quand j'avais acquis ma maison, je n'allais pas en rester là avec l'immobilier.
D'accord.
Je voulais vraiment en vivre, en fait. Parce que,
D'accord.
en tant que. Est-ce que c'est peut-être mon rôle de mère qui me disait non, mais. Je veux rester avec mes enfants, mais en même temps, bah, je suis une femme des années voilà, 2020, mais je veux travailler aussi. Tu vois? Est-ce que c'est ça dans ma tête
Qui te poussait
mais qui
ouais.
me poussait quand même à développer ce côté immobilier? Mais j'avais aussi cette notion, comme tu l'as dit, de ne pas passer par le système bancaire classique et de garder mes valeurs. Donc, c'est ça auquel je faisais vraiment attention dans l'immobilier. Et donc, du coup, ma maison principale, je l'ai eue, donc je l'ai acquise en 2010. Et ensuite, 10 ans après, on a acquis notre premier appartement.
D'accord.
Donc, un appartement voilà, de taille classique, hein, les styles de chambre, je ne sais plus comment ça s'appelle, F2 ou F3.
Ouais.
Donc, toujours dans la même ville, à côté de chez nous, parce qu'on voulait être aussi rassurés. On ne voulait pas s'aventurer dans quelque chose de trop loin. On voulait avoir la main dessus, pouvoir s'en occuper facilement. Sans
Ouais.
passer par une agence immobilière pour ne pas nous rajouter des frais, parce qu'on ne voulait pas non plus. En fait, on veut minimiser à chaque fois les dépenses qu'on
Les
peut
coûts,
avoir
ouais.
sur nos investissements.
D'accord.
Voilà. Donc, on a eu le premier appartement en 2020. Ensuite, quand on avait construit notre maison, on avait construit une dépendance également à côté, où on s'était toujours dit, on finira par en faire quelque chose. On ne savait pas quoi. Mais on l'a gardé et cette dépendance-là, en fait, on l'a transformée en studio.
Mashallah. Donc, vous avez
Voilà.
optimisé
Voilà.
complètement votre bien. pour pouvoir en
Et
tirer
aujourd'hui,
profit.
voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les sisters qui nous écoutent. Si vous vous lancez dans la construction, gardez toujours un petit 30-40 mètres carrés sur votre terrain. Que vous, voilà, enfin, les architectes savent faire ça aujourd'hui, hein, maintenant ils savent bien tracer les plans. C'est un petit studio qui est complètement isolé. Moi, j'ai ma vie de famille dans ma maison, j'ai mon jardin, j'ai tout. Mais à côté, j'ai quelque chose qui me permet de prendre en charge tous les frais annuels de ma maison.
Maison, ma chère, la maison. Donc, ça a été vraiment bien pensé, réfléchi et vous n'êtes pas lancé comme ça, quoi. Il y avait toujours un objectif derrière.
Parce qu'en fait, au moment où on a construit notre maison, et je pense que les expériences de vie font qu'on réfléchit toujours différemment. Au moment où on a construit notre maison, mes beaux-parents étaient en retraite, venaient de sortir en retraite. Et ils avaient une maison, très simple, voilà, pour la petite histoire, ils avaient une maison, mais sauf que quand on a une petite retraite, une maison, bah, ça coûte un bras. Ça coûte très cher. Et je me disais, bah, alors attends, si eux, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, alors j'imagine même pas nous qui allons pas avoir de retraite, comment ça va être compliqué? Parce que pour moi, voilà, moi je me dis qu'on n'aura pas de, voilà, on n'aura pas de retraite, quoi, avec le système. Donc je me dis, si eux, pour eux, enfin là, à l'heure actuelle, en 2010-2015, ils réfléchissent, mais alors nous, dans 30 ans, qu'est-ce que ça va être? Donc il fallait que, voilà, il fallait qu'on trouve une solution, ce que j'appelle à chaque fois d'autofinancement. Il faut que mon projet se finance tout seul. Il faut pas que je sois toujours là en train de réinjecter. Et donc, on a donc du coup aménagé le studio. C'est vrai que l'aménagement du studio nous a coûté un peu moins cher que l'acquisition des appartements parce que bah, voilà, les murs étaient déjà faits, le sol était déjà fait. On avait juste à l'aménager à l'intérieur avec le placo, une petite salle de bain, deux, trois meubles. Voilà, c'est un studio pour une personne, donc il nous fallait pas grand-chose, quoi.
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça que vous avez mis en location à plein temps, c'est ça?
Voilà, c'est ce que je partage d'ailleurs dans des fois sur mon compte Insta. C'est ce qu'on met aujourd'hui voilà, en location, ce qu'on appelle saisonnière. Et je travaille, et encore, quand je dis location saisonnière, je travaille principalement qu'avec des entreprises. Voilà, parce qu'on a pas mal d'entreprises ici. En fait, moi, j'avais trop peur, parce qu'en fait, j'ai des enfants qui étaient encore petits. J'avais trop peur qu'il y ait tout le monde et n'importe qui viennent. Enfin, quand quelqu'un a loué, vous ne pouvez pas non plus lui dire, bah non, toi, je ne te sens pas trop, ne viens pas. Et je ne voulais pas non plus tomber dans des choses auxquelles je n'adhère pas, en fait. Donc, j'ai préféré démarcher les entreprises qui sont aux alentours de mon domicile et leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai un studio. Si vous voulez, on travaille ensemble dès que vous avez des personnes qui viennent en formation ou des nouveaux employés qui n'arrivent pas de la région et qui sont coincés, ben moi, on peut travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce sont voilà, les entreprises qui, une fois par an, viennent me voir pour bloquer des calendriers et me dire, ben non, nous, là, on va avoir besoin de plus de personnel, on va avoir des intérimaires, il nous faut votre appartement.
C'est génial ça.
L'immobilier, c'est quelque chose qui est sans cesse en mouvement. Il y a tout le temps des nouvelles idées, il y a tout le temps des opportunités, il y a tout le temps des... Il faut tout le temps rester ouvert, en fait, et voir ce qui se fait autour. Voilà, c'est
Et du
vraiment...
coup, excuse-moi, donc je te coupe, mais c'est pour revenir à quelque chose que tu as dit avant. C'est que, en fait, tu dis qu'il faut toujours rester, entre guillemets, dans la tendance, voir ce qui se passe et s'adapter, etc. Mais là, dans ton cheminement, je constate quand même que, bah, avec ton mari, vous avez quand même anticipé pas mal de choses. C'est-à-dire que vous avez construit, tu avais 26 ans, et quand tu as construit, tu as quand même pensé à ce côté-là de dire, bah voilà, je vais faire quelque chose de cette indépendance. On va construire une indépendance, on n'en a pas besoin, mais tôt ou tard, ça va servir à quelque chose. Et du coup, en pensant comme ça, bah, vous avez pu vous adapter facilement à ce qui se fait maintenant, bah, les locations Airbnb de courte durée qui sont, voilà, ça remplace limite les hôtels, quoi.
Comme tu l'as dit, on vivait l'instant présent, mais il fallait qu'on voie plus loin. Il fallait à chaque fois qu'on se dise oui. Et puis on a aussi, je pense que c'est aussi notre relation qu'on a avec le matériel, que ce soit moi ou mon mari, on a une relation qui est complètement détachée du matériel. C'est notre maison, mais on est conscient que c'est pas notre maison. Voilà, on est aujourd'hui capable de prendre une partie de la maison, de dire bon bah celle-là elle est louée. Alors que très honnêtement, les personnes qui nous écoutent, vous dites à n'importe quelle femme, bah, écoute, tu as 30 mètres carrés dans la maison, qu'est-ce que tu veux quoi? Elle va te dire, bah, attends, je vais faire une super cuisine. Non, déjà, la cuisine que j'ai, c'est bon, 15 mètres carrés, c'est bon. C'est
Ça
déjà,
me
pour moi, c'est trop.
suffit. Ouais, c'est ça.
Enfin, Il faut que les personnes qui construisent et qui vont acquérir des maisons à 200, 250 mètres carrés, il y a du boulot derrière. Enfin voilà, il faut qu'elles aient conscience de ça. Et plus on rajoutera de mètres carrés dans une construction, plus on payera. Ça aussi, vous inquiétez pas, les impôts, ils vous le rappelleront souvent.
À ça, comme on dit, c'est pour ça
Voilà.
qu'on dit on n'est pas totalement propriétaire de ces
C'est
biens en France,
exactement
parce que
ça.
même quand tu veux rajouter une partie ceci, une piscine par là, une
C'est ça.
indépendance, tu dois alors les prévenir, payer pour.
C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on avait toujours eu l'idée de ce studio parce qu'on savait que bah, les taxes, elles ne vont pas aller en baissant, que aujourd'hui, on le voit, hein, l'énergie ne va pas en baissant et que bah, il fallait quelque chose en plus pour pouvoir nous subvenir à toutes les dépenses qui étaient liées à la maison. Voilà. Pas des dépenses liées à la vie de famille, hein, mais vraiment des dépenses liées à la maison. Parce qu'une maison, même si on est propriétaire, comme tu l'as dit, ça nous coûte toujours.
C'est ça.
Voilà, ça coûte toujours en fait.
Et donc ça veut dire qu'en fait, il faut aussi avoir, quand on est propriétaire et qu'on veut être propriétaire, il faut avoir un certain état d'esprit pour pouvoir justement planifier toutes ces choses, anticiper tout ce qui pourrait arriver en fait dans le futur. Parce que toi, tu as tenu compte du fait que voilà. À la retraite, ça peut être compliqué. Bah,
C'est
dans le
ça?
quotidien, on aura quand même des dépenses liées, à la maison. Donc, il faut trouver un moyen justement de compenser ça et de prendre les devants.
C'est ça, c'est exactement ça en fait. Et c'est comme tu l'as très bien dit, c'est l'état d'esprit. Il faut voir en fait votre matériel comme un pouvoir que vous avez dans vos mains, quoi. Allah vous a permis, enfin m'a permis d'être propriétaire. Il fallait que je rende, on va dire, et du moins que j'utilise correctement ce qu'il
Ouais.
m'a donné.
C'est ça,
Ben
Inch'Allah.
voilà, garder un terrain pour garder un terrain qui fasse 200 mètres carrés ou 1000 mètres carrés ou 3000 mètres carrés. Je veux dire, garder un terrain pour garder un terrain, non. Mais garder un terrain, le faire travailler pour permettre, voilà, à une famille de vivre correctement, on vit pas non plus comme des milliardaires, hein. Je veux dire, je représente la famille lambda que tout le monde a à côté de chez soi, hein. Voilà, comme tu l'as dit, hein, moi, j'ai pas de piscine dans le jardin. C'est pas quelque chose. Enfin, c'était pas notre objectif quand on a construit. On voulait simplement mettre notre famille tranquille à l'abri.
À l'abri, ouais.
Voilà. On n'a pas, y a pas, voilà, y a pas les folies des grandeurs chez moi, quoi. Hein.
Ouais. Après, je pense que ça, c'est une question aussi de personne, parce que voilà, toi, tu as tes priorités, tu savais que tes priorités, c'est ça, avoir la maison, mettre mes enfants et ma famille à l'abri. Et le superflu, c'est pas toi, quoi, tout simplement.
Oui, non, ouais, c'est pas, non, on n'est pas, en fait, on n'est pas comme ça. Et enfin, loin de moi l'idée de vouloir juger ceux qui aiment les belles choses ou quoi. Mais il faut, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut avoir la capacité financière derrière de suivre. Voilà, c'est tout. Et après, bah, ceux qui ont la capacité, tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'on peut, voilà, garder une partie de cet argent et en faire profiter d'autres? Enfin, voilà. C'est des questions, moi, que je me pose.
C'est ça. Bah, en fait, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que voilà, Allah, il m'a permis d'avoir ça et je fais en sorte que je l'utilise à bon escient. Ça, c'est une chose très, très importante. Et c'est pareil pour l'argent, en fait. Tout simplement, il t'a permis d'avoir l'argent pour construire des choses. Et ben, dans ce que je construis, moi, je profite, mais est-ce que je peux ne pas faire en sorte d'en faire profiter d'autres personnes?
C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est réfléchi, en fait, ça c'est vraiment un projet qu'on a eu aussi bien bah, à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Le jardin est également pensé comme ça. Mais tout, comme tu l'as très bien dit, tout vient du mindset financier. C'est qu'il faut, voilà, il faut penser sa maison comme quelque chose qui va nous apporter de la valeur et pas quelque chose qui va nous coûter de la valeur. C'est tout. Et après, bah, ceux qui ont la capacité, tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'on peut, voilà, garder une partie de cet argent et en faire profiter d'autres? Enfin, voilà. C'est des questions, moi, que je me pose.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'entends souvent les gens dire, bah, quand on a un logement principal, souvent c'est un investissement, certes, mais c'est pas forcément un investissement qui rapporte.
Ah oui.
Voilà.
Aujourd'hui, moi, très concrètement, si je dois donner des chiffres, Moi, ma maison aujourd'hui, par exemple, entre les différentes taxes foncières, etc., que je paye, j'en ai pour quasiment 2 500 euros l'année. Il me faut plus qu'un 13e mois, par exemple. Donc, quand on n'a qu'une famille, une famille qui vit sur un seul salaire, parce que moi, si je n'avais pas tous ces compléments de revenus à côté, on n'a que le salaire de mon mari. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis vraiment la famille lambda, quoi.
C'est ça.
Pas une héritière de je ne sais qui ou quoi. Non, alhamdoulilah, j'ai ce que j'ai.
Vous avez mis en place la bonne stratégie, en fait, pour pouvoir profiter, on va dire, de ce confort sans forcément être sorti d'une famille riche ou autre. C'est juste que voilà, c'est votre état d'esprit, votre façon de penser, votre rapport aussi au bien, au matériel, comme tu l'as souligné tout à l'heure, qui a fait que bah aujourd'hui vous avez pu vous permettre ça.
C'est ça, c'est qu'en fait, voilà, il faut utiliser les biens que vous avez. Vous avez acheté ce terrain avec de l'argent, eh bien, il faut qu'il vous rapporte. C'est tout. C'est dans cet état d'esprit qu'on s'est lancé, c'est dans cet état d'esprit qu'on a évolué, puisque comme je t'ai dit, on a eu la maison en 2010, le premier appartement en 2020, on a aménagé donc le studio qui est accolé à la maison en 2021, et là, en 2022, on a acquis voilà, un deuxième appartement.
Allô, Monique.
Mais c'est ce que je disais au début. C'est parce qu'à chaque fois, on a aussi augmenté notre capacité d'épargne. On a gardé le même cap et on augmente à chaque fois. Et on réinjecte. On se fait un petit pécule et hop, on réinjecte tout de suite.
Du coup, là, ça veut dire que, par exemple, quand vous avez fini de construire la première maison, donc il y avait plus
Oui.
de, il y avait après, il y avait plus le loyer, donc vous avez augmenté la capacité d'épargne.
C'est ça.
Voilà. Maintenant, vous avez fini la maison, etc. Vous avez pu justement continuer à épargner la même somme et vous êtes parti sur un autre appartement. Cet appartement, vous l'avez mis en location, donc ça vous rapporte encore un loyer. Ce loyer-là, vous l'avez injecté encore dans votre capacité d'épargne, c'est ça? Pour pouvoir aller sur l'indépendance, apporter quelque chose et la mettre en location aussi. Et ensuite, les revenus de ça, ben, avec tout ce que vous aviez déjà avant, vous n'êtes pas parti dans, encore une fois, je me fais plaisir, c'est je rajoute dans ma capacité d'épargne pour pouvoir, voilà, avoir de quoi réinvestir encore dans ce dernier bien que vous avez acheté.
Voilà, c'est exactement ça en fait. Et c'est pour ça que des fois, certains peuvent entendre dire, ouais, mais elle a quatre biens, l'autre il a ci, l'autre il a ça. Mais en fait, tout est dans la stratégie que vous, enfin, la façon, la stratégie que vous allez mettre en place avec votre argent. C'est exactement ça en fait. Moi, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes avec qui je parle. Gérez votre argent de famille comme vous gérez une entreprise. C'est tout. Une entreprise, elle est là au centime près, elle essaye de l'éliminer parce qu'il faut chaque dépense doit être calculée. Et ben là, c'est pareil. Voilà, on calcule et on réadapte à chaque fois parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai trois enfants, ils grandissent, il n'y a pas les mêmes dépenses qui s'ajoutent. Maintenant, j'en ai deux au collège, un en primaire. Donc, les dépenses du collège sont différentes que quand on a trois, par exemple, en petit, en primaire, etc. Donc, on réajuste. Mais quand on voit qu'il va y avoir une dépense, et ben on y travaille sur une année. Exemple de mon fils qui là est en troisième, donc fin d'année, on sait qu'il y a un voyage de prévu, on sait que c'est un voyage qui n'est pas financé à 100% par la ville, la région, etc. Donc qu'il va falloir payer. En temps normal, si je gère mal mes finances, moi, mon fils arrive en fin d'année, il me dit oui, maman, moi j'ai besoin de 450 euros parce qu'on va partir en Espagne ou en Angleterre ou je ne sais où. 450 euros, ça fait un trou dans le budget. Là, non. Le fait de savoir que dans cet établissement, il y a toujours un voyage de fin d'année, eh bien, tous les mois, on y va doucement, 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 et on fait plaisir à son enfant. Et puis, je trouve que c'est en plus très constructif, ce type de voyage. C'est hyper enrichissant pour les enfants. Mais il faut, voilà, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut toujours se fixer des différents objectifs avec son argent. L'immédiat, moi, ce que j'appelle l'immédiat, c'est là, tout de suite, payer les factures à la fin du mois. Le moyen terme, moi je mets moyen plus aussi, et le long terme. Voilà. Mais le fait de décomposer son calendrier, on va dire, son calendrier et son budget, bah ça évite, moi je pense, ça évite 80% des surprises.
Ben, c'est ça, parce qu'en final, même si tu dois sortir une grosse somme, cette somme-là, tu l'as déjà anticipée en mettant chaque mois une petite somme de côté, donc tu le sens moins sur ton budget mensuel. Et quand tu récoltes la grosse somme, en fait, tu te dis, ben, finalement, ça va, le mois, il court toujours bien.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font parce que qui gèrent mal leur budget, c'est que quand ils ont une grosse dépense, ils vont le prendre directement de leur salaire mensuel. Et du coup, si tu sors déjà un 500, 600 euros de ton compte sur un mois, bah finalement, pour gérer le reste des dépenses obligatoires, c'est compliqué.
Ben oui, surtout quand c'est comme là, par exemple, un voyage qui se présente un mois avant les vacances d'été, où toute la famille va partir et que ça va être un budget, ben là, c'est sûr que au final, on va pénaliser tout le monde, en fait. Donc, alors que quand, voilà, comme tu le dis, hein, quand on programme, on anticipe, on a son petit fonds d'urgence au cas où, parce que voilà, ça arrive, hein, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir,
C'est
quoi.
ça. Ben oui.
Mais t'as anticipé.
C'est ça. En fait, tout ce qu'on peut anticiper, tout ce que tu peux prévoir à l'avance, si tu sais que ça demande du financier, du budget, bah tu t'y prépares en avance, quoi. T'attends pas la dernière minute.
C'est exactement ça.
Inch'Allah. Et c'est exactement ce que vous avez fait en fait avec vos propres biens. Vous avez anticipé en fait. Vous avez un coup d'avance en fait à chaque fois pour les nouveaux projets.
C'est ça, on essaye, hein. Voilà, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, mais on essaye toujours d'anticiper, toujours d'avoir un coup d'avance. Et ça, en fait, c'est un état d'esprit qu'on se forge, qu'on met en pratique, et à force de mettre en pratique, que c'est bon.
Ça devient naturel.
Ça devient un automatisme. Voilà, aujourd'hui, voilà, avec quatre biens, moi, je pourrais me dire, ouais, c'est bon, ça suffit. Ben non. Parce que j'ai encore aussi la force physique. Voilà, je suis capable de m'occuper de mes deux biens en location saisonnière et d'aller faire le ménage et d'aller faire ci, réparer ça. J'en suis encore capable. Peut-être que je me calmerai quand voilà, la santé sera différente et que j'aurai aussi peut-être d'autres obligations. Mais voilà, tant qu'on peut faire les choses, faites-les. Ne regardez pas, ne vous dites pas, non mais moi, j'y arriverai pas. Le seul qui va vous dire si vous y arrivez, vous n'y arrivez pas, ça va être Allah. Point barre. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui vous facilitera ou pas. Je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, mais il n'y a que lui qui vous dira si ça marche ou pas.
C'est ça. Ouais, quand tu dis le pas, c'est pas qu'il va pas nous faciliter, mais il va nous montrer que c'est pas pour nous, en fait, et qu'il faut aller voir ailleurs, tout simplement.
Exactement ça. C'est voilà. Faites vos prières de consultation et puis vous laissez. Voilà. De toute façon, c'est très fluide après. Hein. C'est soit ça c'est fluide et ça y est, on y va, soit bah, pas du tout, quoi. C'est problème sur problème sur problème sur problème. Et la chance qu'on a aussi en France, c'est qu'à chaque acquisition, on doit passer par un notaire. Alors, il a 3 mois pour tout vérifier. Puis des fois, bah, voilà, le signe est là. Quand le notaire vous dit bah, non, tel papier ne va pas, le terrain y a ci, le terrain y a ça, l'appartement. Bon, bah, ok, stop, on arrête la vente ici. C'est terminé. Voilà. Et puis au moins, les deux parties sont tranquilles. Nous, on reprend le petit billet qu'on avait posé pour bloquer le bien et le vendeur repart mettre son truc en vente. Faut pas se dire que c'est pas possible. Rien n'est impossible.
Rien n'est impossible. Ce qu'il faut, c'est faire les causes, laisser tout dans les mains d'Allah, quoi, tout simplement.
C'est exactement ce qu'on se dit à chaque fois, quoi. On fait les causes et puis ben, voilà, on attend, on demande voilà, à chaque fois à Allah de nous guider vers le droit chemin. Ça marche. Ok, ça marche pas, bah hop, c'est
C'est
bon.
ça. Il n'y a pas de regret, au moins.
Voilà, il n'y a pas de regret parce qu'on a essayé.
Et ça, c'est important. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre justement, on va dire, entre guillemets, l'échec. Mais en fait, il faut toujours se dire que bah, derrière cet échec, il y a un bien parce que peut-être qu'on a été préservé de quelque chose qui aurait pu être catastrophique en fait en allant vers ce chemin-là, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et une chose aussi qui est importante, enfin que je n'ai pas dit. Ne croyez pas que tous les biens immobiliers valent 300 ou 500 000 euros.
Ah.
Moi, voilà, moi, je vous le dis très honnêtement, ouvrez les yeux. Le Bon Coin, c'est une pépite. Le
Pour
Bon
faire des
Coin,
bonnes
c'est
affaires.
une pépite. Moi, aujourd'hui, très, très honnêtement, je m'en cache pas. On parle de biens, pas la maison où je vis, mais les appartements que j'ai, on est sur des biens qui sont à moins de 40 000 euros.
Inch'Allah. Bah, tiens, en parlant de ça, du coup, tu peux nous dire justement, bah, là, tu nous parlais de la bonne gestion et tout, mais comment en fait vous avez fait, bah, du coup, financièrement parlant, pour financer votre premier bien? Combien ça vous a coûté? Chacun des biens, tu peux nous détailler un peu pour que bah, justement les gens puissent avoir une idée.
Enfin, je pense que les auditrices se doutent bien que le prix d'une maison est complètement différent du prix d'un appartement, quoique. Après, c'est ce que je dis à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une maison pour vivre tranquille ou est-ce que vous voulez du vrai investissement immobilier? Et là, on vise des villes comme Paris, Lyon ou des choses comme ça. Moi, ce n'était pas du tout l'objectif que j'avais. c'était de vivre correctement. Et une chose aussi qu'on savait, c'est comme je l'ai dit, on ne voulait pas passer par un crédit bancaire. Ça, c'était clair, net, précis. Donc, on savait qu'il fallait qu'on ait un apport personnel important, non seulement pour avoir du poids quand on va vouloir négocier auprès du vendeur, parce qu'il faut savoir que ceux qui payent cash, en général, leurs offres, elles sont plus vite acceptées que ceux qui disent « bon, ok, je prends, mais attendez, je vais faire un prêt ». Parce que la banque peut lui dire non. Et le vendeur va se dire ouais, mais attends, lui, peut-être qu'on va lui dire non, et moi, je vais passer à côté de quelqu'un. Donc, en général, quand vous dites moi, je paye cash, on signe tout de suite. Et ce qui est important, c'est que vous allez, par exemple, pour mon cas, je savais que quand j'allais construire ma maison, j'allais emprunter de l'argent à la famille. Donc, c'était aussi un moyen de prouver à ma famille regardez, je sais gérer mon argent, je vais vous rembourser. Parce que regardez, là, j'ai payé mon terrain, donc je sais gérer mon argent. Je sais comment faire, comment m'organiser pour rembourser ma dette. Donc, c'est aussi un moyen, c'est une garantie que moi, alors qu'on ne m'en demandait pas, parce que nous, on a demandé vraiment de l'argent aux proches proches, donc qui nous connaissaient, qui connaissaient vraiment toutes nos vies, quoi.
C'est ça, vos valeurs, le fait qu'ils savent, ils savent
voilà.
qu'ils vont retrouver leur argent, ils ont une confiance aussi.
Voilà, et qui savaient que voilà, qui connaissaient notre projet, où on leur disait clairement, nous on a juste un peu d'argent pour pouvoir attaquer la maison, on rentre dedans, et on économise pour vous rembourser, et puis le reste, on verra après. L'extérieur, c'est du plus, c'est que l'extérieur. Donc on fera ça doucement, tranquillement. Donc ça donne aussi des garanties à ceux qui vont vous prêter de l'argent. Parce que quand vous empruntez, enfin pour mon cas, quand on emprunte de l'argent à la famille, eux, leur vie, elle continue à côté. Leur projet, il continue à côté. Donc si vous ne leur donnez pas les signaux de OK, elle, là, je vais lui prêter, parce qu'en fait, on va lui prendre son épargne, ce que j'appelle moi l'épargne long terme. C'est de l'argent dont il n'a pas besoin, qui est juste posé sur un compte. Mais là, lui, aujourd'hui, c'est 10, 15 000 euros, il n'en a pas besoin. Donc, il se dit, autant j'en fais profiter ma sœur ou mon frère.
Exactement.
Donc, mais à un moment, cette personne, elle va en avoir besoin. Elle ne l'a pas économisé pour rien, cet argent. Donc, ça aussi, il faut que ce soit des garanties pour ceux qui vont vous prêter. De se dire, non, mais parce que prêter 10 000 euros à quelqu'un que vous savez qu'il est tout le temps en train de dépenser à droite, à gauche, qu'il a découvert et tout, non, moi, je ne prête pas. Hein. Très honnêtement, moi, je ne prête pas. Je ne peux pas prendre le risque de donner mon argent à quelqu'un dont je sais que ça va pas.
Et c'est là que j'allais rebondir, du coup, parce que vous avez fait l'emprunt à la famille proche qui vous connaissez. Et du coup, si quelqu'un veut passer par cette case-là, d'emprunter à la famille proche ou être elle-même la personne à qui on va emprunter, quel conseil tu pourrais donner sur quoi faire attention, en fait, avant d'emprunter ou de toi-même quand tu vas emprunter chez une personne, qu'est-ce que tu dois voir chez toi pour te dire, je serai en mesure de rembourser la personne?
Déjà, de voir le... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut réfléchir comme une entreprise. Je ne vais pas emprunter à quelqu'un, comme je t'ai dit, qui ne sait pas épargner, qui ne sait pas économiser et dont je n'ai pas de garantie quoi, derrière. Je suis désolée pour les gens qui ne travaillent pas, mais quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a pas eu un salaire derrière qui va me prouver qu'il est capable de me rembourser, quoi.
Ouais.
Non, désolé, je ne lui prête pas. Voilà. Et inversement, je pense que ceux qui m'ont prêté, c'était ça. C'est parce que derrière, mon mari, même s'il était sur le chantier les week-ends, il allait travailler la semaine. Donc, ils avaient cette garantie.
Oui, qu'il y avait une entrée d'argent.
Voilà. Et un conseil aussi que je donne à ceux qui vont emprunter à la famille, n'empruntez pas de grosses sommes à une seule et même personne. Voilà. Par exemple, pour mon cas, nous, on savait que quand on avait acheté le terrain, on l'a acheté, très honnêtement, à 50 000 euros.
D'accord.
Frais de notaire compris.
Compris, ok.
Tout compris, signé chez le notaire, on en avait pour 50 000 euros qu'on a payé 100% avec nos fonds propres.
Inch'Allah, d'accord.
Voilà. Ensuite, on avait fait les devis pour démarrer la construction de la maison, ce qu'on appelle l'ossature, donc les murs, les fenêtres et un toit. On avait besoin de 30 000 euros. Donc, c'est là où la famille est intervenue et on a préféré emprunter trois fois 10 000 euros plutôt que 30 000 euros à une seule personne. Parce qu'en fait, quand vous prenez 10 000 euros chez une personne, le trou est moins important que si vous lui prenez 30 000. La personne peut peut-être continuer à épargner pour combler ses 10 000 euros. Alors que recommencer à épargner pour remonter jusqu'à 30 000, des fois, c'est compliqué, quoi. Comme je le disais au début, avec 30 000 euros, on achète un appartement aujourd'hui. C'était nous, le choix qu'on avait fait, c'était d'emprunter 30 000 euros pour démarrer la construction de la maison. En parallèle, nous, on a continué à épargner pour finir les travaux intérieurs. L'électricité, l'eau, le carrelage, des choses comme ça. Et une fois que, voilà, et comme je te disais au début, une fois qu'on est rentré dans la maison, qu'on a quitté notre appartement, on a toujours eu notre capacité d'épargne identique, plus le loyer qu'on avait maintenant rajouté à notre capacité d'épargne. Et ça, là, on a enclenché les remboursements.
Et du coup, dans les remboursements, vous vous êtes pris comment? Est-ce que vous remboursiez la dette d'une personne et après attaquer une deuxième une fois que la première est finie, ou c'était les trois personnes en même temps?
Non, en fait, nous, on a eu la chance d'emprunter à nos parents principalement.
D'accord.
Donc, des retraités qui ont, pour la plupart, c'est bon, ils ont leur maison, ils ont, enfin voilà, quoi, c'est plus tout est booké pour eux. Voilà, ils sont retraités, ils n'ont plus les mêmes besoins, plus les mêmes dépenses qu'une famille, quoi.
D'accord, donc ils n'avaient pas forcément des besoins urgents de fonds, quoi.
Voilà, ils n'avaient pas besoin urgemment de leurs fonds, mais nous, par contre, on était conscients qu'on avait une dette au-dessus de la tête. Et nous, on voulait vite s'en débarrasser. Voilà. Nous, c'était vraiment quelque chose que mon mari, voilà, moi, il faut que je rembourse ces gens-là. Même s'ils m'ont prêté, même s'ils n'ont pas besoin de leur argent tout de suite, il faut que je les rembourse. Donc, c'est vrai que sur les trois personnes à qui on a emprunté, donc il y avait mes parents, mes beaux-parents et ma sœur, on a d'abord privilégié ma sœur parce que voilà, elle est jeune, elle allait peut-être construire une famille, des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va dire que dans la logique, ce serait plus elle la première. Mais on a quand même fixé un calendrier avec les personnes chez qui on emprunte. Hein.
D'accord. Donc vous avez mis un échéancier de remboursement.
On s'est mis un échéancier. On leur a dit, vous voulez quoi? Un remboursement mensuel ou vous préférez qu'une fois qu'on a les 10 000, on vous les verse? C'est ce qu'ils ont préféré. Non, on n'a pas besoin forcément de notre argent. Dès que vous avez la somme, vous nous l'envoyez. Mais au moins, ça permettait de... Parce qu'en fait, quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un sans dire quand, quoi, comment, vous allez vous oublier. Vous allez vous oublier et vous allez vous dire, c'est bon, elle je lui rendrai l'année prochaine, c'est bon, j'ai le temps, je lui rendrai l'année prochaine. Non, il ne faut pas. Il faut se dire, bon, écoute, là, tu m'as prêté, moi, je suis capable d'épargner, par exemple, 10 000 euros par an, l'année prochaine, tu les auras. Mois de janvier, ils sont sur ton compte.
C'est ça. Vous êtes fixé vous-même un échéancier, même si eux vous disaient, vous pouvez prendre votre temps, c'est pas urgent, mais voilà, vous êtes imposé cette discipline d'épargner pour les rembourser au plus vite.
C'est ça. On se l'est imposé non seulement d'un point de vue religieux, parce qu'il fallait qu'on se débarrasse vite de notre dette, et parce que moi, j'étais mal à l'aise de me dire je vais aller en vacances, ou je vais aller là, ou je vais changer de voiture, ou je vais ci, ou je vais ça, alors que en fait, c'est pas mon argent. C'est pas possible. Je veux dire, moi, je suis rentrée dans ma maison pendant 5 ans, j'ai pas changé les meubles. Hein. J'ai d'abord fait tout ce que j'avais à faire. Et ensuite, je me suis dit, là, on va peut-être penser à installer une cuisine. Bon, là, on va peut-être penser à acheter un salon. Mais c'était après, parce qu'on avait toujours gardé cet objectif de se dire, non, on fait d'abord ce qu'on a à faire, le financier. Ensuite, on verra en plus. Le plus, c'est après.
Et ça, c'est toute une question encore d'état d'esprit. Et c'est quelque chose que je me tue à répéter aux sisters que j'accompagne, parce que souvent, j'ai des personnes qui sont endettées, à découvert, que ce soit des dettes à la banque ou chez des proches. Et en fait, quand elles viennent chez moi, je me rends compte que la seule chose qu'elles veulent, c'est pouvoir épargner. Tu vois, OK, on veut épargner parce que... Et quand tu dis pourquoi tu veux épargner, c'est parce que j'ai des projets à réaliser, etc. Mais quand je vais faire le diagnostic de leur situation, je vois qu'il y a des dettes à gauche, à droite. Et je dis, mais en fait, quand tu me dis que tu veux épargner, en fait, ton épargne principale, c'est quoi? C'est je veux rembourser mes dettes, en fait. Tu as des dettes, tu ne peux pas te permettre de dire « je veux réaliser certains projets » alors que tu dois de l'argent à la banque ou à tes proches. En fait, tu ne peux pas laisser les gens te voir vivre ta vie confortablement alors que tu leur dois de l'argent, quoi.
C'est exactement ça. Et en fait, si vous vous mettez toujours dans votre tête de vous dire comment je suis vue et comment moi je vois l'autre. Demain, moi, si je prête, mais très honnêtement, hein, demain, si je prête à quelqu'un 20 000 euros et que je vois la Thaïlande, la nouvelle voiture, le dernier robot de cuisine, et si Emmy, alors que moi, j'ai besoin de mon argent parce que j'ai un projet qui m'attend.
C'est ça. Hein.
Oui, parce que les gens qui ont des 20 000, 30 000 ou 40 ou 50 même, si vous voulez, sur leur compte, mais ce n'est pas pour le plaisir, hein, c'est qu'il y a un projet derrière, c'est qu'ils ont quelque chose en tête. Donc, ils veulent bien vous rendre ce service-là maintenant parce que eux, ils sont pas encore sûrs à 100%. Mais à un moment, enfin, il faut être honnête, quoi. Tu vas pas aller te profiter de la vie avec l'argent des autres.
Exactement. Et c'est ça que c'est important de garder ça en tête. Et si ça vous pose pas problème, bah, mettez en tête le fait que bah, voilà, si aujourd'hui il arrive quelque chose et que vous mourrez avec une dette, eh ben votre âme reste suspendue jusqu'à ce que cette dette soit remboursée. Et parfois les dettes, vos proches ne sont pas au courant que vous les avez. Donc du coup, qui va venir la régler pour vous, quoi?
C'est exactement ça. Nous, voilà, c'était exactement ce qu'on s'était dit. Il faut qu'on se débarrasse de cette dette. C'était obligé. C'était, voilà, notre, voilà, une fois qu'on avait pu, voilà, payer notre terrain, attaquer la maison, c'était non, ces gens-là, il faut qu'on les rembourse. Même si, et pourtant, on pourrait se dire, ouais, c'est nos parents, c'est bon, ils attendent, hein. Ouais, ils attendent, hein, c'est bon. Hein. Ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, en gros, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont tout. Ils ont une maison, ils ont une voiture, ils sont à la retraite, qu'est-ce qu'ils, ils n'en ont pas besoin. Mais ce n'est pas ton argent.
C'est pas ton argent. Que ce soit les parents, le frère, la sœur, c'est pas ton argent.
Voilà. Et je donnais toujours l'exemple, des fois, à certaines personnes. Quand vous amenez vos enfants au parc, par exemple, il a son ballon, ton fils se fait piquer son petit ballon parce que l'autre copain, il veut jouer avec. Et, mais votre fils, il n'arrête pas de pleurer parce qu'il veut son ballon. Au bout d'un moment, vous allez lui dire quoi? Bah, vous allez aller voir le petit garçon, vous allez lui dire, bon, écoute, je suis désolée, mais c'est le ballon à mon fils. Il faut que tu lui rendes. Bah, c'est exactement pareil. C'est leur argent, il faut leur rendre. Et c'est tout, point final. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser. C'est voilà, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent, ils m'ont prêté, ils m'ont rendu ce service-là, je leur rends.
C'est ça, parce que même si c'est les parents et qu'on se dit ouais, ils n'ont pas de projet, bah, si l'argent il reste dans leur compte en banque, c'est leur problème en fait. Ils font ce qu'ils veulent après avec cet argent.
Et puis faut pas, enfin, et aussi quand on a une fratrie, il faut pas être égoïste, parce que peut-être que vous avez un frère ou une sœur qui attend lui aussi cet argent pour un autre projet.
Exactement. Et ça, c'est bien que tu le soulignes.
Il faut penser en fait, bah, il faut penser plus loin que le bout de son nez, quoi. Ou peut-être que voilà, ben, comme j'ai dit là, la fratrie, vos parents, ils vont peut-être aider un autre frère ou une autre sœur pour un autre projet. Ou peut-être qu'ils ont envie de faire une sadaqa pour une, je ne sais quel projet. Enfin, ça leur appartient. Donc moi, j'ai pas mon mot à dire et je dois leur rendre. C'est tout. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que les gens doivent se mettre en tête. En fait, il faut s'appliquer les mêmes règles que si on avait contracté un crédit bancaire. Si demain on prend un crédit sur 25 ans, vous croyez que la banque elle va nous dire ouais bah demain si tu veux tu me rends mes sous?
Ah bah
Non,
non.
tous les mois elle va prendre que vous en ayez ou que vous en ayez pas, elle va se servir sur votre compte et elle vous mettra même à découvert s'il faut. Mais elle
C'est
aura pris son
ça.
argent.
Et elle prend plus que son argent, puisqu'il y a les
Voilà,
intérêts.
c'est ça. Bah en fait avec des gens qui vous ont aidé en plus, bah, vous avez doublement l'obligation de leur rendre. Parce
C'est ça.
qu'ils ont été plus que généreux avec vous.
C'est
Et
ça.
au passage, bien sûr, on n'oublie pas de remercier Allah parce que, voilà, sans ça, je ne sais pas des fois comment on aurait fait, quoi.
C'est ça,
Et donc,
inchallah.
n'oubliez jamais, voilà, n'oubliez jamais que quand vous mettez en place un projet, il n'est pas là par hasard, les facilités ne sont pas là par hasard, et remerciez toujours Allah.
Ah, ça, c'est très, très important. La gratitude, numéro un. C'est le numéro un. Dans mes coachings, c'est ça. C'est quand on travaille le mindset, c'est numéro un, la gratitude envers Allah, parce que c'est ça qui est le maître mot de tout. Si tu es ingrat envers celui qui te donne, tu peux pas espérer avoir plus, en fait.
C'est exactement ça. En fait, enfin, que ce soit l'immobilier ou d'autres projets, il faut toujours chercher avec votre argent. En fait, il faut enfin, toujours chercher la baraka, en fait.
C'est
C'est tout.
ça.
C'est tout. Il faut chercher la baraka. Et quand ben, on cherche ça, ben, déjà, tout est facilité, moi, je trouve. Et puis, on se pose les vraies questions. Cet argent-là, donc déjà, est-ce que je l'ai eu d'une manière licite? Hein, parce qu'il faut se poser les questions, quoi. Est-ce que je l'ai eu d'une manière licite? Est-ce que je vais bien le dépenser? Qui va travailler pour la construction de ma maison? On se pose des questions aussi. Qui est cet artisan qui vient? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? On prend pas n'importe qui. Voilà, c'est des questions. Et avant d'aller dépenser aussi notre argent, est-ce qu'on a bien vérifié que tous les ayants droit, ils ont pris leur part aussi?
C'est ça.
Parce que, enfin, peut-être que je vais en choquer certaines. Mais par exemple, une mère, elle a un droit sur l'argent de son fils. Donc, faites attention, donnez, faites plaisir, laissez les. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas là pour donner des leçons
Ah
de
non, mais
morale.
on est là pour conseiller. On est là pour conseiller. C'est des conseils qui sont bons à prendre. Donc, te prive pas. Partage avec nous.
Voilà. Vérifiez bien, en fait, ouais, vérifiez bien que vous avez bien utilisé votre argent, en fait. Et quand vous le faites bien, eh ben, Allah, il vous apporte encore. Voilà, il vous apporte encore plus, il vous met de la baraka dans vos projets, il vous facilite vos projets. Et après, quand vous avez fini, vous vous dites, oh, waouh, qu'est-ce que je viens de faire, en fait?
Subhanallah.
Ouais, subhanallah, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais ça, normalement, c'est pas possible. À l'école, on m'a dit que c'était comme ci, comme ça, comme ça, comme
Donc
ça.
on n'avait pas le choix, il fallait passer par ça, il faut faire comme ci, comme ça. C'est ça. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et comme on dit, c'est en fait, c'est ça. C'est tu fais les choses, comme tu as dit, là, on parle d'argent, mais ça aurait pu être autre chose. Mais on va prendre, garder l'exemple de l'argent. Le fait d'utiliser son argent licitement, de la manière dont Allah nous autorise à le faire et de délaisser ce qui nous interdit, comme par exemple le riba, ça permet d'avoir justement la baraka dans ce qu'on fait. Et là, vous, bah, vous êtes l'exemple même parce que vous êtes parti sur votre premier bien et vous avez fait les choses licitement, on va dire. Vous avez emprunté et votre priorité, c'était de rembourser les emprunts des personnes avant de chercher un plus grand confort. Et en fait, vu que vous, vos projets, ça partait sur l'immobilier, mais en fait, Allah, il vous a facilité le chemin de l'immobilier parce qu'à chaque fois, vous avez fait les choses en règle.
Non, non, mais c'est vraiment ça, ouais, c'est comme tu dis, hein, peu importe le projet, mais c'est ça qu'il faut chercher avant tout dans sa relation avec l'argent. Et il faut toujours voir en fait l'argent comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Il ne faut pas le voir comme une finalité, hein. Vous pouvez avoir des milliards sur votre compte. Déjà, sachez-le, les milliards sur les comptes bancaires, ils ne vous appartiennent pas. Hein. Demain, la banque, elle ferme, vous n'êtes rien. C'est que des chiffres. Voilà, il faut, enfin, on l'a vu en Grèce, hein, le jour où ils ont fermé les banques, le Liban aujourd'hui. Les gens n'ont plus rien, alors qu'ils étaient, mais enfin voilà quoi, il y avait des millions sur les comptes. Hein. Bon, voilà, il faut vraiment, enfin, vous mettre dans la tête que voilà, votre relation avec l'argent, elle doit être travaillée et elle doit être travaillée de manière éthique.
C'est ça. Et ça, c'est important. C'est ça la base.
Voilà, c'est important parce que c'est en fait quand vous travaillez de manière éthique, et eh ben ça se, voilà, ça marche quoi. Je suis désolée, enfin ça marche. Et moi, voilà, moi aujourd'hui, quand je dis aux gens, ben, on a des biens et on n'a jamais dépassé 50 000 euros, non, c'est impossible. Ben, si tu veux, voilà, si tu veux, je te sors l'acte notarié. Hein. C'est voilà, y a pas de problème.
Tu vois, c'est ça. Parce que les gens, ce qu'ils ont du mal à voir, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu fais les choses dans le droit chemin, même quand Allah il t'octroie une petite part, et eh ben cette petite part était bénéfique. Alors qu'il y a des gens, ils vont avoir des grosses parts, comme tu dis, des 1 million sur les comptes en banque. Mais en fait, si tu vas pas sur le chemin d'Allah, il peut te les faire disparaître en un clin d'œil.
Eh oui, mais c'est exactement ça. Et ça marche, mais pour tout, faites juste l'expérience. Vous, par exemple, deux personnes vont avec 20 euros chacune à Leclerc. Eh bien, il y en a une, elle va peut-être sortir avec 20 euros, mais elle va trouver plein de trucs pas chers. Comment c'est tombé dans le rayon, on n'en sait rien. Enfin, voilà. Et l'autre, bah, 20 euros, elle va sortir avec un paquet de gâteaux et une bouteille d'eau. Va dire, bon, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ben non, quand on cherche bien et quand on dit bismillah et quand on fait les invocations et quand on apprend aussi à nos enfants que attention, l'argent, on y fait attention, l'argent, c'est on va rendre des comptes sur ces euros que vous dépensez à droite, à gauche, ben derrière, voilà, ça, je pense que voilà, il y a du résultat, il y a une protection d'Allah, il y a une baraka d'Allah, enfin, tout marche, quoi, tout marche, c'est comme ça. Et après, on a cette faculté de voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher.
C'est ça. On n'est plus clairvoyant.
On n'est plus clairvoyant parce qu'on fait, comme tu as dit, on fait les causes. On cherche un bien qui correspond à nos moyens. Voilà, on ne rêve pas trop grand non plus. Hein, faut rester terre à terre. Et on regarde les prix, on voit ça. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, alors attends, on va faire Salat Istikhara. Et on fait. Et puis on va visiter. Et puis après, on fait une deuxième visite. Et puis après, on fait une proposition. Ou des fois, même l'agent immobilier te dit. Non, mais attendez, ça passera pas. Hein. Bah ouais, mais c'est pas grave, je tente. Et une semaine après, il t'appelle, il te dit, c'est passé. On signe la semaine prochaine, le propriétaire a voulu.
Voilà, parce que c'est pas lui qui est maître de la décision, en fait.
Parce que c'est pas lui qui est maître de la décision. C'est exactement ça. Et ça, tant que on se le met pas bien, 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 bien dans le cerveau, ben on n'y croit pas, en fait. On n'y croit pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est mis dans la tête qu'un bien immobilier, c'est, comme je t'ai dit, du 300 000, du 200 000. C'est déjà rien que les chiffres, ça fait peur. Alors que non.
C'est bien que tu soulignes parce que moi, du coup, quand j'ai des, bah, justement des sisters qui veulent commencer dans l'immobilier et qui se disent, ouais, mais je pourrais jamais acheter, c'est trop cher, je dis, bah, c'est trop cher dans la région où tu es, mais peut-être que tu peux aller voir ailleurs. Si toi, ton objectif, c'est d'avoir un bien immobilier. Ou des fois, je vais leur dire, bah, un bien immobilier, ça dépend ce que tu veux en faire. Est-ce que c'est pour vivre ou est-ce que tu dis, je veux un bien immobilier pour pouvoir gagner, en fait, sur dessus? T'es pas obligé de partir sur une maison 5 pièces. Tu peux commencer par un studio. Ou ça peut être même un garage, tu vois, un parking. Ça peut être, tu vois, un box. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui aiment louer, qui ont besoin de plus de place, qui vont louer des box. Tu commences comme ça te fait, voilà, une entrée d'argent. Ben, cette entrée d'argent, tu la mets toujours de côté pour ton projet immobilier. Et quand tu as une somme, tu vas acheter quelque chose de plus grand. Et ainsi de suite. Et comme ça, tu peux commencer, tu vois. Mais les gens, non, ils veulent tout de suite partir dans le gros. En fait, parce qu'on est impatient et on veut tout de suite le truc, voilà. Le gros truc pour dire, voilà, j'ai fait le. Mais non, en fait, on peut commencer petit à petit et évoluer. Comment vous avez construit votre maison, ben voilà, c'est première étape, deuxième étape, troisième, et après, voilà quoi.
C'est ça. Et subhanallah, après, les choses s'adaptent aussi à votre vie. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans la maison et que l'extérieur était un chantier, hein, mais vraiment un chantier, c'est-à-dire des palettes à droite à gauche, des tas de sable et de scie, mais mes enfants, je crois que je leur ai offert les meilleures années de leur vie.
Ah ouais, là, c'était le labyrinthe.
Ah bah, on monte là, on saute là, on descend ici, viens, on creuse un tunnel, viens. Mais on s'en fiche, on n'a
Inch'Allah.
pas, je disais rien parce que de toute façon, j'avais pas d'arbres, j'avais pas de fleurs, j'avais pas de. J'avais rien. Alors en gros, tapez dans le ballon tant que vous voulez, faites des bâtons magiques ou ce que vous voulez.
C'est
Y a
ça.
rien. C'est là où quand on se pose et on se dit, mais en fait, les choses, elles étaient très bien faites. Parce que les années où ils sont petits, où ils ont besoin de jouer dans la boue, dans les machins et tout, moi, mon extérieur était complètement en chantier. Alors c'était grandeur nature. Voilà, ils sont éclatés. Et puis bah, après, ils ont grandi. Et puis bah, là, moi, ça y est, j'ai commencé à planter mes arbres, à planter mes. Ou là où. Voilà, ou là où maintenant, ils sont capables de comprendre au printemps, quand je leur dis non, les arbres sont en fleurs, je ne veux pas de ballon. Et bien, ils comprennent, ils disent ouais, non, mais attends, parce qu'après, si les fleurs, elles tombent, on n'a pas de fruits. Ben, voilà. C'est ça quand je dis que c'est une relation à l'argent, mais enfin, universelle, quoi. C'est voilà, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants ont appris aussi que cet argent-là, il fallait en prendre soin. Cet arbre-là, on l'a acheté de telle manière qu'il faut en prendre soin. Voilà, c'est en ça que je dis qu'il faut voir des biens immobiliers vraiment dans la globalité. Et pas se dire, ben, moi j'ai 5 maisons, j'ai 3 pavillons, j'ai 2 apparts. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que voilà, Allah t'a tracé ton petit parcours, voilà, tout est tracé. Faut pas se prendre la tête en fait. Faut pas, et c'est là où tout le tawakkul joue en fait. Je place ma confiance en Allah. J'y vais et on verra bien. Voilà, on verra bien. Parce que nous, notre niya n'était pas du tout d'être voilà, les super rentiers de la ville. Hein. Non, non, nous on voulait. Très honnêtement, moi, quand je me suis lancée, je voulais rester auprès de mes enfants. Mais comme je te disais, femme de 2000, des années 2000, je voulais quand même travailler. Ben voilà, ben j'ai trouvé le combo. Voilà, la bonne combinaison entre les deux. Je suis auprès de ma famille, mais j'ai quand même mes petites affaires qui me permettent un peu de m'évader, de faire ma petite vie, quoi.
C'est simple. Et toi, tu as trouvé ce confort-là, on va dire, dans l'immobilier.
C'est ça. C'est exactement ça.
Du coup, merci pour toutes ces réponses et cet échange que je trouvais très, très intéressant et que je pense que beaucoup de nos sisters devraient prendre pour exemple tout ce que tu viens de nous dire et
Inch'Allah.
mettre en application certaines choses, Inch'Allah. Du coup, bah là, je me rends compte dans votre quête de voilà d'investissement, parce qu'il y a différents types d'investissements, etc. Vous, vous êtes vraiment focalisé sur les achats immobiliers. Après, moi, par rapport au fait que bah, je vienne d'un milieu aussi financier, je me dis qu'il y a aussi d'autres choses qui auraient pu être faites avec l'argent que vous avez fait. Et je suis quand même une partisane de bah, je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Du coup, le fait d'être resté que dans l'immobilier, vous, est-ce que tu as quelques regrets? Est-ce que tu aurais fait différemment? Ou est-ce que vraiment c'est vraiment le truc qui était fait pour vous?
Je ne pense pas que j'ai de regrets pour le moment. Là, au moment où je te parle, je n'ai pas de regrets parce que ça correspond au plan qu'on s'était un peu fixé, hein, grâce à Allah, mais ça correspond à ce qu'on recherchait. Donc, c'était, voilà, comme je te disais, au premier, vraiment, de se libérer de cette dépense loyer et après, créer des revenus complémentaires pour vivre convenablement. Le seul regret, si je devais avoir un regret là aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas avoir saisi d'autres opportunités immobilières quand j'en avais la capacité, en fait, parce que j'étais pas encore dans cet état d'esprit, tu vois. Et le seul regret, c'est le conseil que je donnerais voilà, aux sisters, c'est vraiment de, si elles veulent se lancer là-dedans, il faut, enfin voilà, il faut y aller, quoi.
Ouais,
Pas se...
il faut essayer de saisir les opportunités quand elles sont là, quoi. Mais du
C'est
coup,
ça.
ça aurait été toi dans l'immobilier quand même. C'est toujours l'immobilier.
Ouais, parce que, enfin, moi, je suis aussi partisane du fait qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que l'immobilier, c'était déjà le premier, on va dire, le premier volet que je voulais développer. Voilà. Après, je savais que je voulais développer d'autres trucs, mais je ne savais pas trop quoi encore.
D'accord. Et là, du coup, aujourd'hui, si on te pose la question des types d'investissements qui se font, à part l'immobilier, puisque ça, on sait que c'est, on va dire, c'est votre vocation, est-ce qu'il y aura d'autres types d'investissements qui pourraient t'intéresser ou dans lesquels tu as déjà commencé justement à réfléchir ou à même investir?
Alors là, moi, dernièrement, j'ai commencé à investir dans l'or. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années, mais je me voyais mal aller, voilà, aller acheter de l'or, où est-ce que j'allais stocker, comment j'allais faire. Enfin, je me faisais, encore une fois, je m'étais créé mes peurs autour de cet or. Je me disais, ouais, mais si j'en achète, je vais le stocker à la maison, on va me cambrioler, je vais peut-être me faire agresser. Enfin, je m'étais fait un film, quoi. Mais je savais qu'il fallait que je le travaille. Donc je me suis dit, bah, je vais patienter et je vais trouver la solution. Et comme je dis toujours, voilà, quand on place sa confiance en Allah, tout vient au bon moment. Quand voilà, on a fini nos projets immobiliers, l'investissement dans l'or avec le projet Inaya Gold Dinar s'est présenté à moi. Et bah, voilà, ni une ni deux, on a signé, quoi. Et hop, là, maintenant, voilà, on investit dans l'or. Ça, c'est vrai que c'est plus un projet sur le long terme, dont on voit les résultats sur le long terme, pas immédiatement, en fait.
D'accord. Et du coup, pourquoi l'or?
Parce que l'or, je trouve que ça reste quand même une valeur sûre, hein. C'est l'immobilier, ça reste une valeur sûre, mais pas autant que l'or. Parce que moi, je sais que déjà, à l'époque, mes parents, enfin, des choses comme ça, ils investissaient dans les bijoux en or. Parce qu'ils se disaient, oui, mais quand il va monter, on va le revendre. Enfin, ça... Et peu importe le pays où tu vas, tu le revends. Voilà. Ça reste une valeur universelle. Là, moi, mes appartements, les appartements que j'ai en France, bah, voilà, concrètement, moi, je peux les utiliser qu'en France, quoi. Donc,
C'est ça. Et ça suit le cours aussi, hein, le si l'immobilier baisse.
c'est ça. Donc, voilà, c'était la solution qui s'était offerte à moi d'investir dans l'or. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est un projet, un autre projet aussi auquel je réfléchis, mais je n'ai pas, voilà, encore trouvé chaussure à mon pied. J'aimerais bien, moi, maintenant, plutôt soutenir tu sais, des entreprises qui travaillent pour notre communauté, qui auraient peut-être besoin de fonds, parce que voilà, pour ne pas justement passer par tout le système bancaire, parce que quand on crée une entreprise, forcément, on a besoin quand même, je pense, d'un certain nombre de capital, quoi, de fonds. Là, ça, c'est un projet qui me trotte un peu dans la tête.
Ouais, et ce serait un projet très intéressant, mashallah, et c'est ce qui manque dans notre communauté, c'est d'avoir des investisseurs pour les gens qui ont des idées.
Voilà. Après, et c'est comme je disais au début, toujours avec une mentalité, un état d'esprit entreprise. C'est-à-dire que, okay, je veux investir dans ton entreprise, mais il va falloir que tu me prouves que je vais en avoir pour mon argent. On peut avoir cette solidarité entre frères, sœurs musulmans ou... Mais il faut avoir du réalisme.
Ah oui, c'est ça. Ouais, parce que là, tu vas penser comme une investisseuse et non comme une personne qui prête de l'argent. Bah après, si tu échoues, tu me rembourses dans tous les cas, c'était un prêt. Là, quand tu investis, tu donnes l'argent, en fait, et l'argent, tu ne vas pas forcément le récupérer. Il y a aussi ce côté risque, ton investissement, qui fait que bah, finalement, tu vas quand même faire en sorte de minimiser ce risque en étudiant bien le business plan de la personne, le plan financier, prévisionnel, etc., pour être sûr que bah voilà, je prends la bonne décision. Et après, comme on a dit, c'est Allah qui fait le reste, mais au moins toi, t'aurais fait les causes et t'aurais vérifié ce qu'il y a vérifié pour être sûr que voilà, j'ai donné une chance à la bonne personne et pas à la personne qui va me prendre les 50 000 euros et disparaître dans la nature et dire que bah finalement l'entreprise a échoué alors qu'en fait c'est elle qui a rien fait pour faire décoller l'entreprise, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, ça, c'est vraiment un projet là qui me trotte dans la tête. Bon, après, ça me trotte dans la tête, mais je ne me suis pas encore vraiment
Pencher
focalisée
dessus.
dessus. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, ça, c'est quelque chose maintenant que voilà, que j'aimerais développer. Parce que comme je le disais, voilà, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Et là, tu seras utile aussi bien pour toi, si ça fonctionne, que pour la communauté, puisque tu aideras d'autres personnes justement à réaliser aussi leurs rêves et développer une activité qui peut après, par la suite, bah, même embaucher, donc aider d'autres musulmans à trouver du travail, etc. Et ça devient un cercle vertueux, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle, moi, enfin, ce qu'on appelait en cours, la complémentarité de compétences. Toi, tu as l'idée, tu as les compétences intellectuelles, techniques, tout ça pour le faire. Ben ouais, mais moi, j'ai l'argent. Ben, je te le prête et puis ben, on va travailler ensemble. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut développer dans notre communauté. Ben, voilà, créer, je sais pas, moi, un fonds d'investissement et voilà, aider parce que je suis sûre qu'on a des pépites. J'en suis sûre.
Ouais. J'en parlais en plus il n'y a pas longtemps avec d'autres personnes et c'était ça parce que tu sais, on parlait du côté investir en bourse, etc. Bah là, c'est quand tu veux investir dans une entreprise, tu penses tout de suite à la bourse parce que c'est des entreprises qui sont cotées, donc tu sais qu'il y a quand même déjà un potentiel et qu'il y a une certaine sécurité. Et du coup, on se disait, mais en fait, le truc, c'est que toutes les entreprises ne sont pas forcément licites pour nous les musulmans. Donc, il faut étudier au cas par cas, machin, etc. Et ce qu'il faudrait, ce serait d'avoir justement, nous, notre propre bourse, entre guillemets, avec les entreprises, voilà, musulmanes qui sont là, on sait qu'elles sont licites, etc. Et bah, que ceux qui ont de l'argent puissent justement aller investir pour pouvoir faire décoller l'entreprise.
Ah ouais, non, mais je sais, hein. C'est aussi toutes ces questions-là que moi, tu vois, moi je me pose, hein, parce que je me dis, oh, mais attends, je vais investir dans une entreprise, mais est-ce qu'elle va bien faire le boulot? Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas déraper? Quand on a de l'argent, il faut penser aux devoirs qu'on a envers cet argent et aux droits qu'on a aussi envers cet argent. C'est ce que je disais toujours, il faut penser tout le temps dans les deux sens. OK, on va donner de l'argent, mais on va être responsable aussi, on va en rendre des comptes. Donc, il faut.
Faut savoir où tu le mets en fait, à qui tu le donnes et comment ça va être utilisé après en fait.
Comment ça va être utilisé, qui va l'utiliser, voilà, comment ça va être développé.
Le côté éthique, environnemental, sociétal, enfin, il y a tout ça hein, à prendre en compte.
Voilà, c'est ça. Et est-ce que, voilà, demain, je ne sais pas, moi, s'ils vendent l'entreprise, ben, que ça ne me correspond plus, est-ce que je peux me retirer ou pas ou, enfin, c'est toutes ces questions-là que je me pose.
C'est un sujet intéressant, ça, qui peut faire le sujet d'un autre podcast carrément. Tellement il y a à dire sur ce sujet-là. Franchement, pour la communauté, c'est des choses qu'il faut voir et essayer de mettre en place. Et franchement, ouais, il y a de quoi dire et il y a de quoi faire, en tout cas. Pour les personnes qui ont les épaules pour porter ça, hein, parce que ça doit être du boulot, hein, de pouvoir, tu vois.
C'est ça aussi que je me dis, c'est que quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, putain, celui qui fait ça, il a intérêt de s'accrocher.
Ah, ben oui. Ah oui, ça, il faut avoir les épaules solides, hein, pour...
il faut avoir les épaules solides, il faut avoir les compétences. Enfin voilà, il faut être calé quand même. Hein. Enfin voilà, moi c'est ce que je disais. Voilà, je peux aider, mais au-delà d'aider, je sais pas si j'aurai le, je sais pas si j'aurai tout le reste.
La force de faire, ouais, tout ce qu'il y a derrière, hein. Non, ça doit être du boulot, mais...
Bah, en fait, voilà, il faut être conscient aussi. Moi, je sais que je n'ai pas les compétences. Donc là, à l'heure actuelle, oui, moi, on me demande quelque chose comme ça, je dis non, non, je ne sais pas faire. C'est tout. Je veux bien apprendre, mais je ne sais pas faire. Donc, je ne prendrai rien en main. Une règle qu'on doit aussi s'appliquer dans tous les projets qu'on mène. Je vais me lancer là-dedans, mais alors, est-ce que tu t'y connais? Est-ce que tu connais tes droits? Est-ce que tu connais tes devoirs? Est-ce que tu connais ci? Est-ce que tu connais ça? C'est comme certains qui me disent, ouais, mais je fais de la location et tout. Ouais, ma locataire, si elle m'embête, je dis, ouais, mais attends, elle t'embête, mais tu as des devoirs envers elle. Elle a des droits, tu as des devoirs. Donc, si, OK, elle a abusé, je peux comprendre, mais en attendant, toi, est-ce que tu as fait la part de ton job? Est-ce que toi, tu accepterais de vivre dans l'appartement que tu lui as donné? Si toi, tu acceptes, il n'y a pas de souci, hein, ça veut dire que l'appartement est correct, bien équipé, propre, OK. Mais si tu. Enfin, c'est dégueulasse, le chauffe-eau il fuit, la cuisine, les portes elles tiennent à peine, il fait froid, c'est mal chauffé, ben, moi j'y resterai pas avec mes enfants. Donc comment je peux accepter que d'autres familles avec leurs enfants viennent? Déjà, si on s'applique juste ça, ça règle, je pense, pas mal de problèmes de location.
Exactement. Ah, mais c'est ça. En fait, c'est une remise en question. Quand il y a un souci, tu vas pas tout de suite blâmer l'autre. Tu te remets toi d'abord en question en te disant, mais est-ce que moi j'ai fait ma part? Et si moi j'ai fait ma part, ok. Donc, vu que je t'ai donné ce que je suis censée te donner, là, tu peux pas te permettre de me traiter comme ci, comme ça. Mais si tu te fais ton introspection et que tu te rends compte que, bah, du coup, j'ai des manquements, bah ouais, t'as des manquements. Donc, la personne en face, forcément, a réagi à ces manquements.
C'est exactement ça. Enfin, voilà, si on s'applique, enfin, si on est aussi exigeant envers soi-même qu'on peut l'être avec les autres, ça règle, je pense, énormément de problèmes. C'est ça, en fait, qu'il faut se. Voilà, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, se remettre en question, évoluer, parce que ça, on va s'améliorer, on va prendre de. Voilà, avec l'âge, on apprend à être plus patient, on apprend à être plus diplomate, enfin, voilà, des choses comme ça. Et ça s'apprend, bah, avec le temps, hein. Et ça s'apprend aussi en s'améliorant chaque jour dans sa relation avec Allah. Chaque jour, voilà. Et quand tu t'améliores, ben, lui te montre après comment y arriver. Voilà. Moi, par exemple, alhamdoulilah, aujourd'hui, l'appartement que j'ai en location classique, j'ai quelqu'un dedans. Hein, mais j'ai déjà du monde qui me dit, ouais, quand elle sort, je le prends. Ben, ouais, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je ne peux pas te dire. C'est voilà, c'est des contrats 3 ans, 6 ans, 9 ans. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle sortira dans un mois, elle va m'envoyer un courrier, elle va me dire, oh, je veux sortir. Peut-être qu'elle va me dire, bah non, je rempile pour 3 ans encore. Et ouais, et puis ben, et je la laisserai. Mais parce que je pense que si elle y est, c'est parce que j'ai aussi fixé un prix juste. Il faut pas non plus, quand on fixe ses loyers, il faut pas être exorbitant, il faut pas être non plus trop bas non plus. Et puis, bah, il faut être humain, quoi. Tu donnes un appart qui a tous les critères pour pouvoir y vivre.
Ça. Il faut être juste, tu t'es juste, équitable, et si toi tu l'es, bah forcément toi tu trouveras le locataire qui voudra continuer à être avec toi, puisque finalement tu traites la personne comme elle doit être traitée, hein, tout simplement.
C'est ce qu'il faut s'auto-appliquer en fait. C'est ce que je dis toujours. Il faut qu'on n'ait rien à se reprocher. Tu as une dette, eh ben, tu la rends. Tu as un truc à faire avec ta locataire ou le locataire saisonnier, hein, quelqu'un qui passe juste pour un week-end. Tu devais lui faire ça. Eh ben, tu lui fais. Tu t'y es engagé. Tu l'avais écrit sur l'annonce, donc tu le mets. Il y en a qui disent, waouh, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, il vient 2 jours, il n'en a pas besoin. Qui te dit qu'il n'en a pas besoin?
En fait, c'est au locataire de décider après oui ou non, est-ce que j'en ai besoin, mais toi, en fait, tu fais ce qu'il faut faire, tout simplement.
Voilà. Surtout quand c'est quelque chose que tu as déclaré, que tu fais un, par exemple, moi je vois dans certaines annonces de location saisonnière, alors dans les équipements, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis ben, quand tu arrives, il en manque la moitié. Ben non, si tu l'as pas, si ça s'est cassé, tu vas vite sur l'annonce, surtout que maintenant c'est accessible via ton portable. Hein. Tu gères ton annonce Airbnb directement, par exemple, via le portable. Tu vas sur l'annonce, tu enlèves. Ah bah désolé, il est en panne. Ou alors quand on va faire une réservation, tu préviens. Ok, je vais valider votre réservation, mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, la cafetière, elle est en panne. Ok, bah s'il accepte, il était prévenu. Je pense qu'il faut, dans n'importe quel projet, enfin, qu'on va choisir, comme tu as dit, le fonds d'investissement, l'immobilier, les entreprises, les side business que certains peuvent développer, il faut être exigeant, c'est tout.
Peu importe ce que tu fais, ça me fait penser à quand j'étais à Londres, ma coach en recherche de boulot, quand j'étais là-bas et que je recherchais du boulot, et elle disait, en fait, peu importe le métier que tu as, même si c'est femme de ménage et que c'est négligé, eh ben, tu fais en sorte d'être la meilleure femme de ménage dans ce que tu fais, tu vois. Voilà, tu t'engages dans quelque chose, même si c'est quelque chose de petit, eh ben, tu fais en sorte de bien le faire. Parce que le fait de bien faire ça, eh ben, on va voir aussi que tu as des compétences, tu as le mérite de bien faire, et ben, finalement, peut-être qu'on va vouloir te confier autre chose de plus grand, en fait. Mais si le petit truc déjà que tu es censé faire, tu le négliges et tu ne le fais pas correctement, bah, finalement, voilà, on ne va pas te donner plus important.
En fait, il faut être appliqué dans tous ses faits et gestes, quoi. Et puis surtout, il faut se le dire parce que là, aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis présente, mais peut-être que dans 2 heures, je ne suis plus là.
C'est ça.
En tant que musulman, on ne doit jamais l'oublier, ça. De se dire, ben ouais, mais peut-être que demain, je ne suis plus là. Donc, au mieux, je me soulage, au mieux, je serai. Hein. C'est mon état d'esprit, mais au moins, j'aurai à rendre de compte, au mieux, ça se passera.
Ce sera exactement. Et là que tu
Voilà.
parles d'état d'esprit, du coup, bah, finalement, dans tout ce que tu nous as raconté, on voit que c'est une histoire de mindset, de façon de penser que tu as, hein, qui fait que bah, finalement, tu chemines vers la réalisation de tes objectifs facilement. Et donc, vu qu'on parle d'argent, est-ce que tu peux nous dire justement, bah, toi, ton état d'esprit par rapport à l'argent, c'est quoi ta relation à l'argent, c'est quoi qui fait que bah, justement, ta vision de l'argent fait que finalement, aujourd'hui, tu arrives à atteindre tes objectifs?
Ben, moi, je pense que ma vision ou ma relation avec l'argent, elle est plutôt saine parce qu'en fait, j'ai jamais considéré l'argent comme un gage de sécurité. Mais depuis toute jeune, hein, je l'ai toujours pris comme un moyen de faire ce que je voulais faire. En fait, voilà. Moi, mon moteur, c'était mon objectif ultime, je ne sais pas si on peut dire ça, c'était d'être libre, de faire ce que je veux dans ma vie. Mais je savais que le moteur, il lui fallait de l'essence. Et cette essence-là, c'était l'argent. Mais moi, je n'avais pas envie de travailler 35 heures par semaine et d'avoir que 5 semaines de congé à l'année. J'en voulais pas parce que je pense que c'est dans ma période étudiante où quand tu dois cumuler et le boulot dans le supérieur et le travail le week-end pour pouvoir payer tes petites factures et tout, je crois que ça m'a. Enfin, faire ça pendant 4 ans d'affilée, je crois que ça m'a dégoûté. C'est pas que ça m'a dégoûté du travail, ça m'a dégoûté de ce style de vie, en fait. Se dire, mais en fait, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais tu n'as jamais le temps de lever la tête.
C'est ça. C'est le conditionnement dans lequel on est aujourd'hui, en fait, dans la vie de tous les jours.
C'est ça, de se dire, ben, j'ai même pas le temps de me dire, enfin, je peux même pas me permettre aujourd'hui de me dire, ben non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller travailler, même si vous voulez m'enlever de la fiche de paye, j'ai pas envie, je vais rester chez moi sur mon canapé. Ben, tu peux pas te le permettre quand t'as pas d'à côté. Tu peux pas te permettre de dire, ben, c'est bon, moi, cette année, je prends 2 mois de vacances, hein, c'est bon, je pars pas qu'un mois. Ben non, t'as pas d'autre entrée de salaire, donc si tu travailles pas, t'as pas de feuille à la fin du mois, et puis ça y est, tu vas te lancer dans des dettes, dans des retards de paiement et pénalités de paiement et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, moi, c'est vrai que je ne le voulais pas. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu une relation plutôt saine avec l'argent, une relation forcément qui a évolué au fil des années, parce que comme je t'ai dit, je le voyais plus comme un moyen et pas comme une finalité. Moi, j'ai toujours vu l'argent comme un moyen et jamais comme une finalité. Et je pense que quand on comprend ça, eh ben, on voit l'argent différemment. On voit vraiment l'argent différemment.
Et ça, c'est une phrase que j'aime parce que c'est ce que j'utilise moi-même souvent. C'est ça, en fait. C'est l'essence même de sa relation à l'argent. Et quand j'accompagne les sisters, c'est pareil. C'est que quand j'ai leur état d'esprit dans lequel elles viennent, je leur dis toujours, il faut qu'à la fin de cet accompagnement, tu puisses me dire que moi, l'argent, pour moi, c'est un moyen de réaliser mes projets et c'est plus la finalité. Et j'aime cette phrase et c'est exactement ce que tu dis. Et voilà, tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Et comme tu as dit, quand on a compris ça, eh ben en fait, on peut faire énormément avec son argent.
C'est exactement ça, parce qu'en plus, on s'en détache, parce qu'on a compris qu'il ne nous appartient pas. Demain, Allah, il veut me l'enlever, il me l'enlève, et ça y est, c'est terminé, j'en ai plus. Je vais pleurer auprès de qui? Je vais faire quoi? Enfin, moi, je donne toujours, bah, d'ailleurs, même à mes enfants, je leur donne toujours l'exemple du Liban et de la Grèce. Regardez, ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont eu ce qu'il faut, enfin, le schéma classique qu'on apprend, hein, que j'ai appris aussi, hein. Il faut travailler, il faut avoir son CDI, il faut mettre de l'argent de côté à la banque, parce qu'on ne sait jamais, on va te le voler, etc. Eh ben, le jour où la banque elle ferme, eh ben, t'as que tes yeux pour pleurer.
C'est ça, exactement. Et c'est aussi pour ça que c'est bien, comme on disait tout à l'heure, de ne pas mettre
C'est ça.
ses œufs dans le même panier. Tu ne te dis pas, j'épargne, je laisse tout dans la banque, en fait. Non, l'argent, il est là pour être utilisé. Va le mettre dans la pierre, va le mettre dans l'or, va le mettre un peu en bourse, va investir dans une entreprise, mais compte pas sur la banque pour garder cet argent-là, quoi.
Enfin, après, voilà, j'ai rien contre les banques ou quoi, mais il y a un moment.
Ah, moi, j'ai quelque chose contre les banques.
Toi, t'as quelque chose
Moi,
contre.
je le dis, j'ai quelque chose contre les banques. J'étais partie pour travailler dans des banques, tu vois. Donc, j'ai quelque chose. Le fonctionnement même de la banque, du système financier dans lequel on vit, il ne me convient pas du tout. Déjà, du côté éthique, hein, religieux, c'est une catastrophe. Et ça ne nous facilite pas du tout en tant que musulmans. Et du coup, c'est ça qui fait que beaucoup de nos frères et sœurs tombent dans riba parce que finalement, ils pensent que voilà, ils n'ont pas le choix. Et même s'il n'y avait pas ce côté riba, en fait, la banque, elle n'est pas l'amie de l'être humain, en fait. Elle est là pour s'enrichir, elle, et peu importe ce qui peut arriver à la personne, en fait. Elle peut te vendre du rêve aujourd'hui. Si demain, elle doit tout reprendre, elle va tout reprendre.
Ah oui, si demain elle coule, hein. Pour la petite anecdote, moi, quand on construisait la maison et que j'allais à la banque pour lui dire, écoutez, il va falloir me débloquer 10 000 euros demain qui vont partir chez tel fournisseur parce qu'on a commandé un toit, des fenêtres, etc., ça la faisait chier. Hein. Ah, franchement, et je lui disais, mais attendez, mais c'est mon argent, quoi. Elle me dit, oui, mais quand même, votre compte, il fond comme neige au soleil. Je dis, oh, mais t'es pas fait pour rester ici, hein.
C'est pas ton problème, en fait, tout simplement,
Et
tu vois.
je lui avais même dit, je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, hein, une fois que j'ai fini la maison, le compte, je le ferme, hein, j'en aurais plus besoin. Hein.
Ah non, mais ils aiment pas ça, hein. Que
Ah
tu
oui.
retires ton argent, surtout quand ça commence à dépasser les 5 000, 10 000 euros. Et en plus, ils vont te demander des fois des justificatifs. Ah,
Ah
mais
oui,
tu
bah
peux
oui,
pas
ça
tout
aussi.
enlever, tu peux pas tout enlever d'un coup. Il faut faire plusieurs fois des retraits. Il faut prendre un rendez-vous. Quand je vous ai donné l'argent, là, il n'y avait pas toute cette question de où est-ce que tu as trouvé l'argent? Mais quand tu dois reprendre, non, c'est abusé, hein.
Même aujourd'hui, je sais que, enfin, là, nous, on fonctionne de telle manière que, par exemple, mon mari, on a un compte qui nous sert dans les dépenses de la vie courante, et on a un deuxième compte où il n'y a dessus ni carte bancaire, ni rien, pour justement ne pas avoir la tentation d'aller piocher dedans. Et qu'en fait, ben voilà, on accumule. Et d'un coup, on dit, bon, demain, on a rendez-vous chez le notaire, il faudra nous préparer un chèque de banque. Ah, ben ouais, ben c'est bon, c'est chez un notaire. Hein, on n'a pas signé dehors dans la rue. Hein. Et ça les embête.
Ouais.
Je dis, ben, ouais, ben, prenez-le comme vous voulez. Hein. Oui, ben quand même, vous pourriez au moins nous prendre une carte bancaire. Je dis, non, j'ai pas besoin de carte
non,
bancaire.
En fait. Ouais. Non, on n'en a pas besoin, donc.
Un compte chèque, ça me va très bien.
C'est ça. Mon mari, pareil, il a un compte à côté, pareil, sans carte, sans chéquier, rien. Du coup, comme on ne le paye pas, ça, ils n'aiment pas. Il peut avoir des appels du conseiller. À chaque fois qu'il y a un nouveau conseiller, il va l'appeler direct pour dire « Ah ben, ce serait bien qu'on prenne rendez-vous pour voir ce que vous pouvez faire de votre argent. » Mais ouais, mais en fait, non. Moi, je sais ce que je veux faire de l'argent, je le mets de côté, c'est pour une raison. Donc, ce n'est pas à peine de venir me vendre ce compte-ci, ce compte-là ou machin. Non, en fait.
C'est ça, c'est que moi j'ai mon objectif et j'ai aussi un objectif voilà, religieux que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas entendre. Donc bah voilà, je respecte le système, je mets mon argent en banque, voilà, parce qu'on nous oblige. Hein, aujourd'hui, tu peux faire aucune transaction, on n'a pas le choix, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, j'en fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux, je passe par les instances qu'on me demande, voilà, un notaire, si, ça, tout est réglé, hein, tout est carré. Hein. Mais vous ne le garderez pas pour vous. C'est, voilà, c'est pas possible. Vous ne le garderez pas pour vous. Et je pense que quand on a cette relation, comme j'ai dit, saine, une relation business avec l'argent, eh ben on arrive à faire des choses qu'on croyait même pas capable de faire.
Hein. Ouais, pas capable de faire, c'est ça. Et ça, c'est un point très important que tu viens de soulever. Et faut vraiment que les gens intègrent ça, en fait. Et au lieu de se dire, voilà, c'est pas possible, je vais aller sur la facilité, je vais aller prendre un crédit, posez-vous, réfléchissez à quelle stratégie vous pouvez mettre en place sans passer par le crédit. Parce qu'en fait, le crédit, faut prendre, enfin, le crédit en France, en tout cas, hein, et en Occident, faut prendre conscience que, bah, voilà, il y a riba forcément dedans. Et qui dit riba dit, sept péchés capitaux. Et quand tu vas aller te présenter face à Allah et qu'il va te dire pourquoi tu es rentré dans ce péché-là, tu vas pas lui dire non, parce que j'avais pas le choix, tu vois. Est-ce que tu peux te présenter devant Allah et dire non, je suis rentré dans riba, sachant que c'était les sept péchés capitaux, parce que j'avais pas le choix? Ah bon? T'avais pas le choix? T'avais pas déjà un logement?
Oui, t'avais pas les moyens de payer ce logement?
Ce logement, voilà, de rester en location, en fait. Non, parce que je voulais à tout prix un bien. Bah, tu veux un bien, mets la stratégie en place pour avoir ce bien, mais en respectant notre devoir religieux qui est de ne pas rentrer dans riba, tout simplement. Il y a des possibilités. Et il faut juste le vouloir et il faut aussi savoir être patient.
Oui, ce qu'aujourd'hui, certains oublient énormément. Une des vertus qui est importante dans notre religion, c'est quand même la patience. Et avec ça, enfin, quand je dis ça, c'est parce que tu vois à quel point ma relation avec l'argent, pour moi, c'est ça. C'est un élément dans notre vie, c'est tout. Et c'est un élément par lequel Allah va nous tester. Voilà. Il va nous tester, il va t'en mettre un peu, il va t'en mettre beaucoup, il va t'en donner tout d'un coup, il va te l'enlever d'un coup et tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi, comment, pourquoi cette année-là, tu as ramassé 15 000 euros. L'année d'après, tu n'es même pas capable de mettre 2 000 euros de côté. Pourquoi, comment, on ne sait pas. On ne sait pas.
Ouais, parce qu'après, c'est comment tu vas réagir avec ce qu'ils te donnent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas le vivre? Parce que des fois, si tu passes de 15 000 à 2 000, tu peux vraiment mal le vivre et donc être ingrat envers celui qui t'avait donné 15 000 euros avant. Tu l'oublies, ça, et tu restes sur les 2 000 qui sont peu. Tout ça, c'est voilà, c'est des épreuves, mais c'est des épreuves qui sont là pour nous forger un certain mindset, nous montrer que bah en fait c'est pas nous qui sommes décisionnaires, c'est Allah qui donne.
C'est exactement ça, c'est Allah qui donne, et comme tu as dit, il nous a imposé des règles à mettre en pratique. Moi, quand j'entends certains qui me disent ouais mais non, zakat, ça me fait quand même un trou après.
Et pourtant la zakat, hein, 2,5% quoi, tu vois, comparé à nos impôts là qu'on paye, c'est rien.
Et puis quand tu sais derrière, enfin, le bien que ça va apporter à une autre personne, à une autre famille, enfin, je sais pas moi, enfin, à qui tu peux la donner, mais quand tu vois tout ce que ça va faire et que toi, ça va rien changer, que c'est plus ou moins ces 2,5%,
oui.
Tu vas pas te retrouver dehors dans la rue parce que tu as donné 2,5% de zakat. Hein.
Et surtout qu'avant de donner ces 2,5%, je suis désolée, donc il faut quand même atteindre un nissab. Et franchement, aujourd'hui, le nissab, il est quand même à 4 000, 5 000 euros. Donc, tu te dis, si tu arrives à avoir 4 000, 5 000 euros, ça te fait quoi de donner 25 euros dans ça, quoi?
C'est exactement ça. Alors que derrière, c'est ce qu'on disait, en respectant tous tes principes, bah, tu vas apporter, tu vas t'attirer une baraka. Tu ne soupçonnes pas. C'est comme une relation mère-enfant. Quand une mère, elle a vu que son fils, il a bien fait le truc sans qu'elle ait, sans qu'elle ait eu derrière à lui dire attention, ne fais pas ça et tout, mais qu'il a respecté la règle et tout, bah, t'es fière de ton fils. Tu dis, bon, allez, franchement, mon fils, t'as été super aujourd'hui. Allez, viens, je t'emmène un truc qui lui fait plaisir. Je sais pas, je t'achète un jouet. Tu le récompenses. Tu le récompenses. Et lui, il va grandir comme ça. Il va se dire, ah ben, si je fais bien les choses, on va me récompenser. Et ben, c'est comme ça qu'il faut apprendre aussi à nos enfants. Si tu fais bien les choses avec ton argent, Allah, il t'en donnera plus. Tu seras récompensé. Tu seras récompensé, ici ou là-haut.
Je dirais même, c'est même pas le fait d'en avoir plus, c'est que ce qui va te donner te sera utile. Pour moi, c'est ça le point essentiel. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que, oh oui, quand j'ai la baraka, ça veut dire que je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, non. Parce que tu peux gagner beaucoup, mais en fait, si t'as pas la baraka d'Allah, comme on a dit, ça sert à rien. Mais quand il va te donner, eh ben, s'il te donne quelque chose qui t'est utile et qui te permet de réaliser tes projets, parce que comme on a dit, c'est l'argent pour réaliser ses projets. Et chaque personne est différente, en fait. Donc, on n'a pas tous les mêmes projets. Moi, j'ai peut-être besoin que de 1000 euros. Ben, si Allah, il me donne ces 1000 euros qui sont peu pour d'autres personnes, finalement, moi, je réalise mes projets. Et ben là, je suis la plus heureuse. Je vais dire alhamdoulillah.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que chacun, voilà, a son plan personnel et évolutif. Parce qu'on évolue avec les années, que ce soit nous déjà en tant que célibataire, par exemple, quand quelqu'un est célibataire, ben après, quand tu te maries, après, quand tu as une famille derrière, et puis il y a parfois certains qui ont des épreuves de la vie qui sont plus compliquées que d'autres. Il faut ça aussi en prendre conscience et être indulgent aussi envers ces personnes. Enfin, moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi, voilà, arrêter d'être, voilà, égocentrique, quoi. Se dire non, mais moi je veux une maison, moi je veux ci, moi je veux aller en vacances, moi je veux la dernière voiture, moi. Non, il y a un moment, regarde, lève la tête, regarde autour de toi. Est-ce que tu peux pas faire le khair dans quelqu'un qui est juste à côté de toi, qui parle pas, que tu n'entends pas, qui se plaint jamais? Peut-être que lui, tu vas pouvoir l'aider. Je sais pas, moi, par exemple, en payant une licence à l'année, enfin une licence de sport à son enfant à l'année, non seulement le gamin il va être content, il va faire du sport. La mère, elle va être heureuse parce qu'elle va voir son fils heureux. Et ces gens-là, bah, peut-être qu'ils te feront des deux-uns pour que tu sois récompensé. Voilà, j'ai utilisé mon argent différemment. Voilà. Je n'ai pas investi dans de la pierre, je n'ai pas investi dans de l'or, j'ai investi dans le bonheur d'un enfant, quoi.
Dans le bonheur d'une personne, inchallah. Ça, c'est des choses qu'on doit vraiment pouvoir garder en tête dans la communauté. Surtout que notre religion nous pousse à ça, parce que même au-delà de devoir payer la zakat, il y a les sadakas. Quand on n'a pas la possibilité encore de payer la zakat, il y a les sadakas. Donc, rien que ça, c'est important. Il
On
faut
a les opportunités devant
de
nous.
faire, ouais, de faire le bien, en fait. C'est
Et
ça.
on a, subhanallah, des opportunités adaptées à chaque situation. Enfin, je veux dire, il y a un moment quand tu t'assois et que tu t'imprègnes de ça, tu te dis, mais ouais, mais en fait, c'est vraiment adapté à chaque situation. La veuve est différente de la femme mariée, enfin, du célibataire, du jeune, du vieux, du malade.
Exactement,
Qu'est-ce
subhanallah.
que tu veux de plus? Enfin, je sais pas.
C'est
Mais
clair.
franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir ce cheminement, voilà, intellectuel et enfin d'état d'esprit, d'avoir ce cheminement, de faire les efforts pour ça.
Inch'Allah.
Le changement, ils le verront, Charles. Moi, je pense que le changement, ils le verront.
Si tu as un conseil à nous donner, justement, bah, pour toutes nos sweet sisters qui aimeraient investir dans l'immobilier, ou même bah, d'autres projets, ce serait quoi? Si tu as un seul conseil à donner, tu partirais sur lequel?
Alors, si j'ai un seul conseil, c'est par exemple de ne pas attendre d'avoir le million pour se lancer. Ça, je pense qu'elles ont dû le comprendre depuis le temps que je parle. On n'a pas besoin d'être millionnaire aujourd'hui pour mener à bien des projets. Et comme je dis tout le temps même à mes enfants, il n'y a jamais de bon ou mauvais moment. Il y a des moments calculés. Certes avec une part de risque, mais calculés. Donc, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des side business, des créations d'entreprises et tout, il faut calculer et il faut que vous soyez réaliste. Je calcule. Qu'est-ce que ça va me faire? Combien il me faut pour mettre en place ce projet? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est bon éthiquement, religieusement? Est-ce que c'est carré? Ok, je peux épargner. Est-ce non? Oui, non, je peux emprunter. Voilà. De vraiment de calculer en fait.
C'est ça, on planifie, on anticipe, on organise.
Et on vise toujours quelque chose à la hauteur de ses moyens en fait, de ses capacités. Voilà. Nous, on va pas aller monter demain une entreprise où il y a besoin d'1 million d'euros. Et où on sait pertinemment qu'il faudra passer par le système bancaire pour ouvrir sa boîte. Peut-être que l'idée, elle sera belle, mais ben non, je préfère éviter. Et donc, en fait, tout ça, ben, comme tu l'as dit, ça passe en fait par une gestion des finances, mais carré, quoi. On doit avoir une bonne gestion de son argent, on doit avoir une bonne relation avec son argent pour tenir sur la durée. Parce que là, si elles ont bien écouté mes petits trucs, moi, j'ai commencé en 2010, aujourd'hui, on est en 2022.
Tu vois, donc ça fait, ouais, ça fait 12 ans.
Ça fait 12 ans. Quand tu dis à quelqu'un, ouais, il va falloir 12 ans de travail pour en arriver là où tu veux, bah moi, d'entrée, j'aurais dû dire, 12 ans, c'est trop long. Hein. Ça
m'appelle. C'est trop long, mais au final, ça passe tellement vite.
C'est ça. Au final, ça passe vite. Ça, c'est facile. C'est agréable même, je dirais, parce qu'on en a des fois des souvenirs. Maintenant, on rigole. Alors, sur le coup, oui, on a pu avoir des crises de nerfs et des ce que tu veux, mais maintenant, on en rigole.
Mais en plus, tu vois ton évolution, tout simplement. Ben tu vois d'où tu es parti et où tu es aujourd'hui. Et tu dis, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser ça. Et j'ai réalisé ça en suivant les règles, en fait. Tu vois ? Donc ça, c'est une fierté.
C'est encore plus gratifiant quand on sait d'où on vient. Je veux dire, moi, je suis fille d'un ouvrier et d'une femme de ménage. Enfin, à l'époque, c'était les... Enfin, voilà, je pense, comme beaucoup de parents de notre génération, la seule chose à laquelle ils avaient le droit, l'usine, le ménage. Mon mari est fils d'agriculteur. Donc, il y a un moment où tu te dis, putain, alors, eux, ils ont déjà pas mal souffert de ce qu'ils avaient dans leur vie. Mais ben voilà, moi, aujourd'hui, j'ai pas pris ma revanche, mais j'ai montré au système que ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est possible.
C'est possible. On ne reste pas dans les cases dans lesquelles vous nous avez prédéfinies pour. On peut en sortir et on est capable de s'en sortir. Et ça, sans votre aide, en fait.
C'est exactement ça. Il faut, comme tu l'as dit, qu'elles aient un plan personnalisé. Il n'y a que elles qui peuvent dire où est-ce qu'elles veulent aller, comment elles veulent y aller et combien de temps elles vont mettre pour y arriver. Parce que chacune a sa capacité financière, chacune a ses responsabilités. Hein. Je veux dire, quand tu dois subvenir aux besoins d'une belle famille ou d'une famille, c'est différent que quand tu dois t'occuper que de toi et tes enfants. Hein. Ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment personnalisé et toujours viser un projet à la hauteur de vos moyens. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller taper trop haut. On commence en bas et on monte, et on monte, et on monte, et on monte.
Bah, du coup, en tout cas, je te remercie énormément, Sophia, pour toutes ces réponses, tous les conseils que tu as pu nous donner, d'être vraiment rentrée dans les détails et de nous avoir partagé un petit peu de ton intimité, hein, au final, parce que tu nous as quand même parlé de tes finances et voilà, de tout ce que ton mari et toi avez pu mettre en place pour pouvoir arriver à vos fins, qui étaient, bah, aujourd'hui, dans ce cas-là, c'était les achats immobiliers. Donc, un grand merci pour toi au nom de moi-même et de toutes les sisters qui vont écouter. Je suis sûre que ça va leur apporter énormément, que ça va leur permettre de revoir leur position vis-à-vis de Riba, vis-à-vis de la réalisation de leur projet. Et du coup, ça va peut-être même en motiver d'autres à se dire, bah voilà, c'est possible. Et vraiment, merci pour ça parce que c'est ce dont on a besoin, c'est de se construire ce mindset qui nous dit bah, que la seule limite, c'est Allah en fait. Et que tout est possible tant que lui, il nous a pas stoppé en fait, tout simplement.
C'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'elles doivent. Voilà, tu l'as bien dit, le mot final. C'est Allah qui stoppera n'importe quel projet.
C'est ça, mashallah. En tout cas, ouais. Barakallahu fik et pour toi, pour ton Wafik temps, pour tes conseils. J'ai vraiment hâte de partager tout ça.
Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Merci à toutes les sisters qui vont nous écouter. Et voilà, j'espère qu'elles sauront revenir vers toi pour mettre à bien en application tous ces petits conseils.
Inch'Allah.
Et Inch'Allah, j'espère vraiment que notre communauté réussira dans tout ce qu'elle entreprendra.
Inch'Allah, ouais, c'est vraiment ça notre objectif. C'est vraiment voilà, la réussite de notre communauté. Et ça, par la cause de personnes comme toi, je pense qu'on en prendra conscience. Et voilà, on fera les causes pour pouvoir justement... tendre vers cette réussite, Inch'Allah.
En tout cas, encore merci pour l'invitation.
Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Et puis, merci encore une fois. Salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, ma sweet sister, notre épisode touche à sa fin. J'espère que si tu souhaites être propriétaire, l'expérience de Sophia te sera utile et que tu ne renonceras pas à ton rêve en partant défaitiste. Et que si jamais ta seule solution était le crédit bancaire, alors tu ne tomberas pas dans cette facilité qui en réalité te fait courir à ta perte. Il faut également savoir que le RIBA n'est pas qu'un danger pour toi, mais ça l'est également pour la société en général. C'est un instrument injuste et inéquitable qui fait accroître la richesse des riches au détriment des pauvres. Qu'Allah nous facilite tous dans la réalisation de nos projets et qu'il nous guide sur la voie droite, qu'on puisse réaliser nos projets tout en conservant nos valeurs. Comme toujours, pour remercier comme il se doit notre sister Sophia qui a été tellement généreuse dans ses conseils et dans son partage d'expérience, je te demanderai de laisser un avis et de partager cet épisode avec toutes les sweet sisters qui ont besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salam alaikum.